moins fort, moins fort, moins fort. Oula, oula, et oh! Bonjour. Ça va? Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour les gens. Merci Zach, merci Ouzax, merci Société de la Saucisse, merci Alexander, merci Phil Sensei, merci Blueby pour vos resubs, merci à vous. Ah, comment ça va? Genre il a la même énergie que moi ce matin. Oula. Oula. Ah, et on se réveille, on se réveille. Ah, il est 15h22 du matin. Salut Simply Nemo, salut Larsul, salut Jimmy, merci pour vos resubs, merci. Merci Joffen. Bien l'oreille droite, Jean. Ça siffle encore. T'as abattu la citadelle. J'ai plus de voix. Ça va, Chafaud, vous êtes bien rentré. C'était bien de se faire engueuler par Méluche. Oh, c'est une expérience à vivre. Hein. C'est. Oh, il faut le vivre. J'espère que vous l'avez vécu parce que voilà. Mais non, non, c'est. Ça va vous, je suis très content. J'espère que vous allez bien. J'ai dormi quelques heures cette nuit dans une tente. Et je suis rentré ce matin. Comment tu vis le fait d'avoir une ancienne journaliste d'un journal d'extrême droite? Dans lequel Manuel Bompard donne des interviews. Oula. Oula. Comment ça va? On n'a plus l'âge pour ces bêtises. Oula. Le public insupportable hier, les chroniqueurs qui pouvaient pas poser une question sans se faire huer et Mélenchon qui jubilait. Non, mais oh, ça, hey, c'est la fête de l'humain. Il y a un moment, c'est la fête de l'humain. Faut pas. Je sais pas exactement à quoi vous vous attendiez. Je sais pas très bien à quoi je m'attendais moi-même. Hein. Je vais être assez honnête avec vous. On est tous très contents, l'équipe, on est tous très contents. Du résultat, on est très content de vous avoir montré, parce que c'était voilà, c'est ce pourquoi on avait travaillé, c'était pour vous montrer ça. On est très content du résultat, on est d'autant plus content compte tenu des conditions d'organisation qui ont été ardues. Mais c'était. Non, c'était cool. Si on m'avait dit que tu serais en stream aujourd'hui, hier soir. Quoi, tu veux dire que j'étais pas en état de streamer hier soir? C'est possible. C'est possible. Je plaide coupable. Ah oui, non, attends, 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 j'ai là-bas. Attends, oh là, attendez, il faut que je travaille. Nouvelle source, navigateur. Hop. Oh là, oui, oh. Voilà, la barre de don. On va la foutre là. C'est bien comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. On verra, on verra. Par contre, what the fuck, l'image toute rouge, on aurait dit que vous étiez tous dans un sauna. Non, mais c'est en vrai, c'était à mourir de rire parce que. Le réalisateur Nico, que je remercie, qui a fait un travail énorme hier, enfin toute l'équipe technique, hein, ils se sont arrachés les cheveux sur des problèmes que vous imaginez pas et que moi-même probablement je j'imagine pas. Il m'a dit, il y a des gens qui lui ont dit, putain, la colorimétrie de la caméra de Jean-Luc Mélenchon, elle est chelou, il est tout rouge, faut que tu changes la colorimétrie. Et lui, il a dit, mais il n'y a pas de colorimétrie, c'est la même que les autres cams, c'est juste que Jean-Luc Mélenchon, il est tout rouge. Il y a vraiment. Là, je suis désolé, je. Voilà, on était tout rouge. Son et image de gauche. Le son, putain, mais oh, non, mais c'était à mourir de rire. Enfin, C'était extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on a organisé cette émission, ça fait 2 mois qu'on bosse dessus avec Luma, que je remercierai jamais assez pour nous avoir permis de faire ça. J'ai envoyé un texto ce matin à Maud, donc la directrice de la rédaction de Luma, pour la remercier vraiment du fond du cœur parce que je lui ai dit que, en fait, moi, si je vais chercher dans mes souvenirs, une des premières fois de ma vie que j'ai eu un contact avec la politique, c'était la fête de Luma. J'avais 14 ans, je venais écouter un groupe de rock que j'aimais bien, tu vois. Donc la fête de Luma, ça a été mon premier événement politique, sans que je m'en rende compte, c'est ça la fête de Luma. Et de me dire que 20 ans plus tard, bah, j'ai l'opportunité d'animer un temps à l'Agora de la fête de Luma, en partenariat avec le journal L'Humanité. Enfin, c'est pour moi, le symbole est personnellement très très fort. Donc j'étais très ému, très. Donc merci à Luma. Et c'est ce que je vous disais hier, Luma, c'est la première fois qu'ils prêtent l'Agora à quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais fait ça. Ça fait un siècle qu'ils font la fête de Luma. L'Agora, c'est le stand du journal, c'est là que le journal organise tous ses trucs pendant toute la fête et tout. Ils n'ont jamais prêté le stand à quelqu'un d'autre. Et nous c'était les premiers, donc on a essuyé les plâtres d'un truc magnifique. Et donc voilà. Et donc ouais, ça fait 2 mois qu'on bosse dessus. Ça fait 2 mois qu'on bosse dessus et on savait pas à quoi s'attendre. Tu vois, je me souviens de discussions qu'on avait avec la rédac. On se disait. Ouais, quand même, l'émission, elle est le soir. Est-ce qu'on la ferait pas plutôt dans l'après-midi? Parce que le problème, c'est que le soir, on va être en concurrence avec les concerts. Et que du coup, on avait peur qu'il n'y ait pas grand monde. Et c'était une peur qu'on avait au début. Il y a 2 mois, on savait pas. Comme on l'a jamais fait, comme personne l'a jamais fait, etc. On savait pas trop. On se disait, ah, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, c'est vrai. On est en concurrence avec les concerts, etc. Tu parles. La quantité de public qu'il y avait dès le milieu de l'après-midi, juste pour Maxit. Le public était bouillant. Bah, vous avez vu Malek en partie foutre l'ambiance pendant qu'on réglait les problèmes de micro, etc. Malek foutre l'ambiance, le public hurlait, c'était extraordinaire. Et j'ai partagé un gif sur Twitter du lancement de l'émission. Les premières secondes de l'émission, le public est tellement bouillant que la caméra centrale, le pylône caméra comme on l'appelle, tremble. En fait, le réalisateur Cardel, Nicolas Cardel il s'appelle, Nico, il avait qu'une caméra qu'il pouvait utiliser pendant ce temps-là. Qui tremblait pas, c'est la caméra qui avait derrière moi qui était sur la scène. Tout le reste, les caméras, genre vraiment ça tremble trop. Les gens étaient tellement. L'énergie était tellement dingue que juste. Bah, donc les images étaient dégueulasses. Donc voilà quoi. Donc c'était bouillant, les gens étaient. On n'a jamais vu autant de monde à l'Agora de la fête de Luma, enfin, pour un événement comme ça, dès le premier soir de la fête, etc. Enfin bref, donc c'était vraiment extraordinaire. Quand je repense ouais, aux discussions qu'on avait, on avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Le public qui scande tout le monde déteste la police, témoin extraordinaire. Alors là, de toute façon, moi, c'est. On va en discuter, mais je voudrais pas qu'on résume cette émission de Baxit à uniquement la partie avec Jean-Luc Mélenchon, parce que j'espère que, voilà, que vous avez profité aussi de tout ce qu'on vous a offert dans cette émission. Mais de toutes les façons, il y a un moment dans l'émission, j'ai compris qu'en fait, ce qui est en train de se passer sur le plateau, c'est en soi un fait politique. Et en fait, tu peux pas te battre. Et ça sert à rien de se battre, il faut juste accepter l'état de fait qui est que Jean-Luc Mélenchon est dans cet état, que le public est dans cet état, et que c'est en soi une info. Qu'on est à la fête de l'UMA, qu'on est Baxit, que c'est l'UMA, que c'est la NUPES, etc. Donc en fait, on subit, on est forcé d'accepter une réalité politique qui est ce qu'elle est. Et effectivement, quand le public se met à entonner et tout le monde déteste la police, c'est une data, c'est un fait, et ça provoque des débats et des discussions, etc. Bah voilà. C'était sur le plateau de Libé. C'est un fait de course, ouais, c'est ça, c'est un fait de course, c'est un fait de match. Que doit le chaman? Merci pour ton prime. N'y avait pas beaucoup d'opposition du coup. On va dire ça, on va dire ça aux insoumis sur Twitter. Ils seront contents de l'apprendre. Merci pour ce moment. Donc voilà, alors voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon, donc un homme politique très important de la gauche du début du XXIe siècle, de la gauche française, et vous l'avez découvert hier dans sa version. Voilà. Super Saiyan. Ouais, voilà, on va dire Super Saiyan. Mais pareil, tu vois, ça faisait partie des discussions qu'on avait quand on a préparé l'émission avec Maud, avec Emilio et tout. On se disait, bon, ok, comment est-ce qu'on prépare cette interview? On avait des questions de fond, on voulait, enfin, c'est la fête de l'humain, qu'on est là pour discuter, aborder des sujets, on voulait aborder plein de questions. Et on se disait, mais en fait, on ne sait pas dans quel mode il va être. On ne sait pas comment va être notre invité. Et on est obligé de jouer avec ça. Et je remercie d'autant plus Emilio et Maud, qui sont des journalistes de presse écrite, que j'avais sous-estimé ça avant l'émission, mais je m'en suis rendu compte. La veille, c'est qu'en fait, pour eux, l'exercice des caméras et du plateau, c'est pas leur truc. C'est des journalistes de presse écrite, c'est des très bons journalistes, ils savent écrire des papiers, faire des interviews, etc. Mais l'exercice du plateau, c'était pas leur truc. Et eux, du coup, bah, ils surpréparaient leur émission, ils voulaient prévoir toutes les questions, toutes les relances, etc. Et moi, je leur disais, vous savez, beaucoup des choses peuvent pas vraiment se décider, c'est-à-dire que ça va beaucoup dépendre de l'état de fait du plateau, de notre invité, du public. De machin donc et on savait pas on se disait bon bah voilà peut-être que Jean-Luc Mélenchon je sais pas il peut arriver fatigué pas réveillé il peut arriver dans un état d'esprit d'apaisement parce que c'est l'UMA parce que c'est important de se placer en rassembleur de la gauche etc il peut arriver en mode conflictuel avec l'idée de tartiner la gueule de ses adversaires bon on savait pas bon bah on a su assez vite sur quel pied danser et là du coup bon. Notre petite préparation d'émission, on a quand même réussi à voilà, poser les thèmes qu'on voulait, et c'est ce que je vous avais déjà dit par le passé, c'est que on est responsable des questions qu'on pose, on n'est pas responsable des réponses qu'on reçoit. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est notre invité, c'est bien un invité, on lui pose des questions, il y répond à sa manière, et en répondant ce qu'il a envie de répondre. Charge à nous parfois de le recentrer, etc., mais de le relancer, etc., mais il est comme il est, et c'est quelque chose qu'on doit accepter. Des réponses ou des non-réponses. Et ça, c'est à vous d'en juger. C'est pour ça que c'est une émission. C'est une émission, c'est à vous, en tant que public, de regarder cette émission et de prendre l'information telle qu'elle est. Ok, bon, bah là, il a décidé de dodger la question. Là, il a décidé de profiter de la question pour foutre un tacle à machin. Là, il a décidé de rentrer dans le lard de machin. Là, il a. C'est. Voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder les émissions, quoi. C'était très cool, mais qu'est-ce qu'il est chiant à éluder autant les questions et à faire des cours d'histoire à la place. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est. Effectivement, il prend du temps. Et en même temps, je vous rappelle encore une fois que Backseat, c'est justement une émission que j'ai conçue dans l'idée de laisser du temps, précisément. On fait pas d'interview en 8 minutes. On fait pas de matinale de radio. On fait pas de plateau débat à la CNews, etc. C'est pas ce type d'émission-là. Donc nous. Et c'est important pour moi que mes invités sur le plateau de Backseat aient du temps pour s'expliquer. Et tant mieux si, du coup, il prend du temps. Voilà, c'est pour ça que vous m'entendez déjà. Allez-y, monsieur Mélenchon. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Allez-y. Non, non, mais continuez. Parce que bon. Tu semblais jouer le rôle de bon flic sur le plateau. Oui, mais c'est parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle surtout quand il y a des moments de conflictualité entre, et ça peut arriver, c'est normal, entre un intervieweur et un interviewé, moi mon rôle c'est de être gardien du temps, être gardien de la circulation de la parole, etc. Est-ce qu'il y aurait une rediff? Il y a toujours eu des rediffs. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu en mode anti-média, ça avait pas manqué. Là, effectivement, hier soir sur les médias. Usul, il a pas parlé beaucoup, il avait l'air heureux. Usul, il était mort de rire. Il était mort. Moi, à chaque fois que je le regardais, il était mais, plié en deux. Il dit, putain, t'as vu le phénomène? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que soit que la question que tu lui poses, ça va partir en couille. Tu te sentais pas un peu désespéré en mode perte de contrôle de l'émission? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mélenchon a mangé ta voix. Alors ça, c'est les communistes qui m'ont fait boire après. Anecdote, anecdote de la fête de l'UMA. Il n'y a qu'à la fête de l'UMA que ça peut arriver. Et je vais vers un stand, random, puisque de toute façon tous les stands vendent des bières. Je vais vers un stand. Je tombe sur un camarade qui me reconnaît, qui me dit ah, salut, je lui fais ouais, je vais te prendre une grande pinte de bière, s'il te plaît. Et il me répond, oh non, elle est pas ouf. Il était sérieux. Il me dit, ouais, mais attends, bouge pas, je vais te faire goûter de la mienne. Et là, il me sort une pinte. Il me dit, tiens, goûte. Je goûte. Je fais, bah ouais, elle est vachement bonne, c'est une brune, c'est quoi, t'en as? Il me dit, non, c'est pas moi, c'est le stand d'en face, tu devrais y aller, elle est vachement bonne. Ok, merci, mec. C'est vraiment la fête de l'humain, quoi. Oh, on s'en branle, de toute façon, ta bière, tu la prends ici, tu la prends là-bas, on est tous des camarades. Donc, je fais, ok, bah, je suis allé au stand d'en face, je vais aller prendre une bière. Pareil, du coup, le mec, je lui dis, ouais, on m'a fait goûter une, je crois que vous avez une brune qui est pas mal et tout. Il me fait, ah ouais, la brune, attends, je t'en fais goûter une autre, bouge pas. Pareil, il me sort une pinte. Il dit, tiens, il me fait goûter une ambrée. Je fais, ah ouais, elle est bien aussi. Bah, tu préfères quoi, une brune ou une ambrée? Je sais pas, mais moi, une ambrée. Voilà. Le meilleur bénévole. Ah ouais. Notre bière, c'est exactement ça. Et je me dis, putain, mais y a quel autre endroit qu'à la fête de l'UMA que t'as ça? Un mec qui dit, bon, pff, non, ma bière à moi, elle est pas ouf, mais prends celle d'en face, elle est mieux. Ouais, tranquille. Elle kiffe bien. Hein. Est-ce qu'il y avait Roussel à la fête de l'UMA? Ah bah, il ferait beau voir qu'il y soit pas, quand même. Premier secrétaire du Parti communiste. Pas déconner. Passe derrière le bar au pire. Oh bah ça, assez rapidement, on m'a invité à passer derrière les bars. Hein. Vas-y, tu veux tirer une bière? Bah vas-y, va tirer ta bière. Tu laisses 3 euros sur le comptoir. Ok, vas-y, j'y vais. Il était en interview ce midi depuis là-bas. Ah non, mais Fabien Roussel, il va passer le week-end à faire des interviews, des meetings. Je crois qu'il a fait un meeting ce matin, il en refera peut-être un autre, etc. C'est ça la fête de l'UMA. Alors voilà, c'était aussi ma volonté à moi, c'était de vous présenter la fête de l'UMA. Pour ça, ceux qui connaissaient peu ou qui connaissaient mal, la fête de l'UMA, ça débat et ça parle de politique matin, midi et soir sur tous les stands. Et c'est un vrai lieu de débat, historiquement de la gauche, mais des gauches françaises. Et donc, ne croyez surtout pas que c'est une fête de l'UMA un peu exceptionnelle cette année. Ouh là là, c'est tendu la NUPES. C'est un siècle de discussion, la fête de l'UMA. C'est un siècle d'engueulades, c'est un siècle de gens qui peuvent pas se piffrer. On est quand même sur un festoche. Alors, ça a évolué avec le temps. Il y a une époque, les trotskistes n'avaient pas le droit de venir. Autre époque. Mais voilà, il y a un stand de lutte ouvrière, il y a un stand du PS, il y a un stand de toutes les subdivisions possibles et imaginables des micro-partis de la gauche, ils sont tous là. Il y a deux stands du NPA. Il y a le premier stand qui est le stand du vrai NPA et le deuxième stand qui est le stand du vrai NPA. Et c'est pas une blague. Hein. À chaque fois, tu vois, un militant un UMA, genre tu sais qu'un militant du NPA qui te tend un tract, tu lui dis mais t'es de quel NPA? Toi, il me fait non, moi je suis du vrai. Ok. D'accord. Tout le monde s'engueule et tout le monde boit des bières. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous invitez parfois des personnes de droite dans l'émission? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les gens qui sont jamais allés à la fête de l'UMA ne peuvent pas comprendre. Et ben c'est pour ça qu'on a fait un stream hier pour essayer de vous montrer ça, la réalité de cette fête de l'UMA, quand même un événement très particulier, parce que enfin, c'est une fête organisée par un journal. Avec de la musique, des débats politiques, enfin, quand ils pensent, c'est un objet. Et c'est ce que disait Fabien Gay, le directeur. Non, c'est pas Fabien Gay, c'est Alain, le journaliste de l'UMA, avec qui on a fait la petite déambulation, là, avec Malek, qui nous disait il n'y a que deux endroits dans le monde où il y a un festival comme ça qui existe. C'est en France et au Brésil. Nulle part ailleurs, ça existe. Et c'est vrai, c'est un ovni, c'est un journal qui organise une teuf. Déjà, en soi, c'est chelou. C'est organisé par des bénévoles en lien avec des militants de différents partis, de différentes sections de fédérations, etc. Historiquement très liés au PCF, mais il n'y a pas que ça. Il y a un village associatif, il y a un village international, il y a des gens qui viennent du monde entier à la fête de l'UMA. Donc, allez voir la vidéo de Bolchevik sur la fête de l'UMA. Ouais, allez voir la vidéo de Bolchevik, donc qui était sur mon plateau hier, que j'étais très content d'accueillir, qui a fait une très jolie vidéo sur la chaîne YouTube de l'UMA pour présenter la fête à ceux qui la connaissent pas. Est-ce qu'il y avait la vraie union de gauche de Delga? Carole Delga était là. Carole Delga était là à la fête de l'UMA. Elle a participé, mais je crois qu'elle y est encore aujourd'hui. Hein, elle participe à des débats, des discussions, etc. Bien sûr. Il y a plein de gens à la fête de l'UMA. Aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, il y a. La fête de l'UMA invite, le journal L'Humanité invite chaque année aussi des représentants d'autres courants politiques non de gauche à venir discuter et débattre. Et cette année, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe vient à la fête de l'UMA pour avoir un débat avec Fabien Roussel. Donc voilà, non, vous croisez des politiques partout, dans toutes les travées. C'est demain à 14 h, Roussel, Philippe. Ouais. Votre pauvre journaliste qui s'est fait habiller pour l'hiver. Ouais, alors pareil, la misogynie sur les meufs. Alors ça aussi, je sais que ça a choqué beaucoup de monde. Il y a pas mal de militants, y compris des militants insoumis qui sont venus voir après l'émission, qui m'ont dit ouais, trop bien Jean-Luc. Par contre, comment il parle aux meufs? Genre, Maud et Sacha, les deux meufs du plateau, elles s'en sont pris plein la gueule. Alors qu'Emilio et moi, pas plus que ça, quoi. J'étais révulsé. Mais il y en a plein qui sont venus me le dire. Enfin, c'était très intéressant. Enfin, bon, vous avez vu les militants insoumis, évidemment, qui étaient là pour faire la claque et qui venaient kiffer les sorties de Jean-Luc Mélenchon. C'est normal, c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Il y en avait plein qui, en sortie de plateau, étaient un peu gênés. Un peu gênés par, par la question du positionnement de Jean-Luc Mélenchon contre les journalistes. Jean-Luc Mélenchon a quand même été extrêmement clair sur sa manière d'envisager le truc, et il y a plein de militants qui ne partagent pas sa vision des choses. Sur la manière qu'il avait de parler aux femmes, pareil, les mecs disaient non, non, mais ça, Jean-Luc, oula. Voilà, fais gaffe. Suis pas le seul à avoir été choqué. Non, non, t'es pas le seul. Mais bon. Mais on voulait, ouais, on voulait discuter de la rentrée sociale. En fait, on voulait commencer l'interview, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, hein, cette interview vous avez vu, on voulait commencer par la rentrée sociale, parce qu'en plus l'UMA, dans l'édition d'hier, le journal l'UMA a sorti une enquête, non c'était dans l'édition de cette semaine, je sais plus, sur les préoccupations sociales de la rentrée, qui montre que les classes populaires ont des préoccupations sur le pouvoir d'achat, sur le travail, etc. Et donc on voulait commencer par ça, faire réagir Jean-Luc Mélenchon à ces thématiques-là, et l'emmener petit à petit vers la question de la stratégie, pour ensuite terminer sur les questions de politique, les questions de popole, comme on dit, hein, les questions d'alliance et tout. On ne voulait pas commencer l'interview par ça. De toute façon, en fait, nous, ce qu'on ne voulait pas, mais encore une fois, on ne maîtrise pas ça, nous, on ne voulait pas emmener Jean-Luc Mélenchon vers des petites phrases. On se dit, en fait, s'il veut tartiner la gueule de Fabien Roussel, il le fera. Il n'a pas besoin qu'on lui tende le micro. Et puis, de toute façon, moi, je ne veux, j'aime pas, je veux pas que Backseat serve à ça, jouer le jeu de la petite phrase, ce serait trop facile. Alors ça ferait du retweet, ça ferait de la reprise média et tout, mais j'ai pas envie que mon émission serve à ça. Donc j'essaie de ne pas lancer spécifiquement là-dessus. Et donc voilà, je sais plus ce que je vous disais. Et ouais, on voulait parler de la presse, parce que c'est quand même le journal de l'humanité. Il y a quand même, cette année, quand même, la question du JDD, c'était intéressant. Et on voulait interroger Jean-Luc Mélenchon sur son rapport à cette grève particulière du JDD. Et puis, on voulait parler de la stratégie des alliances, ou les stratégies de la tactique, de la question de la conflictualité, que du coup, Jean-Luc Mélenchon a abordé de lui-même. En nous parlant de sa volonté de continuer la conflictualisation comme stratégie de conquête du pouvoir. Mais d'ailleurs, il l'a dit à un moment, c'était assez révélateur, assez signifiant, il a dit, mais vous savez, plus je clive, plus je monte. Et il l'a dit, à chaque fois, je gagne des électeurs, élection après élection, vous pouvez m'emmerder en permanence à me dire que je crie trop fort, mais plus je crie, plus je gagne. Donc, il va continuer comme ça, il va devenir président de la République en conflictualisant encore plus. C'est comme ça qu'il nous l'a présenté. Enfin bon, il n'a jamais rien gagné. Voilà, ça c'est effectivement. D'autres personnes pourraient dire, ouais, intéressant, ça fait combien de temps que t'as pas gagné une élection? Comment tu rassembles derrière en conflictualisant? Excellente question. Et c'est la question, et c'est la question qu'on lui a posée. Il a fait l'une des meilleures émissions depuis longtemps. Moi, ça m'a boosté. Bah, de toute façon, là aussi, hein, standard. Ceux qui aimaient bien Jean-Luc Mélenchon avant l'émission l'aiment toujours bien. Ceux qui le détestaient avant l'émission le détestent encore plus. Voilà. Et ceux qui sont au milieu entre les deux qui savaient pas trop, bah j'en sais rien. C'est pas grave. Et de toute façon, les émissions sont pas faites pour vous faire aimer ou détester les invités. C'est pas le but du tout. Nous, c'est de les faire parler pour vous les présenter. Et bah là, je pense que oui, Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, il vous a présenté sa philosophie, son point de vue, etc. Il l'a dit assez clairement et avec sa dialectique qu'on lui connaît. J'ai pas trop d'opinion sur lui, je trouve qu'il a pas été dans l'esprit de l'émission. Ouais, après c'est pas une obligation, hein. Backseat est une proposition, c'est pas une obligation pour nos invités, donc ils sont libres de rentrer ou pas dans l'émission. Il a présenté le fait qu'il savait parler à une foule conquise. Mais ça, évidemment, bien sûr, à partir du moment où, évidemment, il était galvanisé par le public. Il était galvanisé par le public, et surtout, on va pas lui en vouloir, hein. Par ailleurs, la fête de l'UMA, c'est pas difficile d'être galvanisé par un public de gauche quand tu dis des trucs de gauche. C'est comme le moment où il a dit. Il a quasiment cité Mitterrand mot pour mot. Ce qui est ironique à la fête de l'UMA, mais pourquoi pas, en disant la base, je ne dévierai jamais de la base anticapitaliste. Et il y a eu un tonnerre d'applaudissements à ce moment-là. Et moi, j'ai rigolé en disant, putain, mais ça fait un siècle que tu génères un tonnerre d'applaudissements à la fête de l'UMA quand tu dis que t'es contre le capitalisme. Genre, c'est vraiment, c'est quasiment dans le code source du festival. T'inquiète, tu vas te faire applaudir au moment où tu diras, ouais, le problème, c'est le capitalisme. Ouais. Bienvenue à la fête de l'UMA, c'est là que ça se passe. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Mais non, non, mais comme je te disais, nous, on s'attendait à toutes les possibilités. On ne savait pas dans quel état d'esprit il arriverait. Problème égale capitalisme, solution égale aucune. Bah, du coup, solution, bah, c'est, du coup, je l'ai relancé, je sais plus sur quelle question, à un moment où, justement, il est dans la description. Oui, c'était une des premières questions du plateau sur la rentrée sociale, justement. Oui, c'est ça, sur le sommet social qui a été promis par Macron. Où Maud lui demande, mais du coup, vous au pouvoir, qu'auriez-vous fait pour répondre à ces préoccupations populaires sur le pouvoir d'achat, etc. Et il est parti dans une description du capitalisme, etc., critique évidemment du capitalisme. Et Maud et moi, on l'a recentré en disant, mais ça c'est le diagnostic. Quel est le remède? Quelle est votre méthode à vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et il a dit sortir. En gros, il a dit bah mettre fin à ça. Ce qui peut être insatisfaisant comme réponse, c'est bah, il suffit de sortir du capitalisme. C'était comment le niveau sonore sur scène? On n'entendait rien. On n'entendait rien du tout. Les retours étaient à fond, mais le public était tellement. À chaque fois que le public applaudissait, criait, etc., je n'entendais plus le son de ma voix. C'était génial, hein, en termes d'animation d'émission, l'ambiance était folle, c'était trop cool. Mais en termes de son, on n'entendait rien du tout. Mais du coup, j'ai regardé ce matin, vous, chez vous, apparemment, ça allait, et ça, je suis très content. Ça devait être compliqué pour lui, vu qu'il est malentendant. Ouais, non, c'était compliqué pour lui. Moi, ça me stressait, ça. Je sais qu'il est dur de l'oreille. Je sais plus laquelle des deux d'ailleurs, il est sourd d'une des deux oreilles. Et moi, ça me stressait. Je me dis, putain, mais si mon invité n'entend pas les questions, ça va être relou, on verra bien et tout. Finalement, ça allait. Il entendait quand même les questions, donc ça m'a rassuré. De toute façon, c'est un peu le drame et c'est un peu la panique du moment, c'est qu'en fait, j'ai pas de solution. Hein. S'il entendait rien, en fait, je pouvais rien faire. On pouvait pas, on avait, les retours étaient au max, on n'avait pas de solution. Le son était quand même très de gauche. Ah ouais? Que retenir sur le fond? Eh ben, c'est à toi de me dire. Qu'est-ce que t'en retiens sur le fond? On n'a pas appris grand-chose. Hein. Jean-Luc Mélenchon ne nous a pas fait d'annonce. Il n'y avait pas grand-chose de surprenant. Qu'est-ce que je voulais checker? Bah oui, non, je voulais checker le replay. Quel replay? Ah, ta gueule. Hop, hop.
L'opinion, ça se travaille, l'opinion, ça se construit. Et puis surtout, derrière, nous, on arrive, on est la couche d'après, on est la politique. Enfin, eux, surtout, les responsables politiques, qu'est-ce qu'ils font de ça? Comment ça se fait qu'avec cette opinion-là, Marine Le Pen s'en sort mieux que la gauche
C'est pas horrible le son.
alors même que Marine Le Pen, sur les
Oh.
questions de service public, ouais, va faire un strict minimum et c'est pas grave. Et là, il y a une
Marine Le Pen,
responsabilité aussi de
Marine Le
la
Pen est
presse
une
sur le
libérale.
focus, trouver des gens de classe moyenne.
Avec un message sur le fil WhatsApp de toute la rédaction en disant qu'on avait été
Oh,
cambriolés.
franchement, ça
Sur le
va?
moment, je vous avoue que j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Et en fait, c'est les locaux principalement de la fête de l'humanité qui ont été cambriolés. Tous les ordinateurs à un mois de la fête braqués.
Merde.
Donc on avait
On sent que tu forces la voix.
une partie de la
Moi,
rédaction
oui.
ici, et donc ça nous a...
De grands médias.
Entre tous les camps, c'est ça, un bon travail de journaliste.
Attends, mais non, mais là, franchement, non, non, non. Moi, je suis plutôt très content du résultat en termes de son, hein. Compte tenu des conditions, on était dans un chapiteau, on était en extérieur, c'était ouvert aux quatre vents. Franchement, ça va. Vous avez l'écho, vous entendez le brouhaha au fond, et c'est, ben, en même temps, qu'est-ce que l'écho, on va pas l'enlever, on peut pas de toute façon. Non, franchement, ça allait. C'était surtout au début les problèmes de son. Oui, je sais, ouais. Les jingles étaient trop forts. Ouais, il y a eu des problèmes de mixage, il y a eu des problèmes de. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'on a malheureusement commencé l'émission avec 25 minutes de retard, je crois. À cause de ça. À cause des problèmes de son. Merci Nedra pour ton abonnement, merci à toi. Vous avez abandonné le débrief à la fin? Non, on n'a pas abandonné le débrief. En fait, on l'a expédié assez rapidement parce que, notamment, vu qu'on avait pris un peu de retard, on voulait passer sur le concert des Vulves Assassines. Alors, ça aussi, j'étais trop content parce que, au début, attends, attends. Au début, avec Malek, on interview les Vulves Assassines et le but, c'était qu'à la fin de l'émission, on bascule sur une caméra au concert des Vulves Assassines. Comme ça, on vous les présente au début de l'émission. Et on termine en musique et tout. Et du coup, j'ai pas encore. Attendez, j'ai pas encore vu les images du coup. Attends, ça donne quoi? Hop, générique.
Jusqu'à 22h05, on est là. Ouais, jusqu'à 22h05.
Thomas. Thomas, c'est le régisseur. Le son est bien. Non mais alors pareil, parce que alors là pardon, mais moi quand on m'a dit ouais ce serait bien qu'on envoie une caméra au concert des Vulves Assassines et tout, je leur ai dit mais les mecs vous vous rendez compte ce que c'est que la captation d'un concert live? C'est hyper compliqué, les micros faut les placer très précisément. Mais franchement le son je le trouve, c'est ok quoi. Je sais pas du tout comment ils sont gérés, je sais pas s'ils sont branchés sur la régie de la scène Zebrock.
On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite.
je suis vraiment très très content. Ça, vraiment, bravo. Bravo la Real. Chapeau. Moi, je savais pas trop quoi m'attendre de ce truc-là en disant ouais, non, c'est vrai que c'est chouette de finir l'émission comme ça, mais moi, enfin, ça aurait été un four complet, ça m'aurait pas étonné. Les mecs, capter un concert live, c'est très compliqué. Franchement, chapeau la Real, c'est cool, la caméra est bien placée. Je sais pas, il y a un moment, je me disais, mais vous allez juste poser une caméra sur un pied, ça va pas bouger, je sais pas. Non, franchement, bien joué. Comme c'est une émission backseat, la rediff sera bien sur YouTube demain, comme d'habitude, ouais. La rediff est d'ores et déjà disponible pour les donateurs, hein, je vous rappelle. Point d'exclamation qui se kiss dans le chat. Aidez-nous à financer cette émission, on a la barre de dons qui est là. Et je vous rappelle que quand vous faites partie du club backseat, quand vous soutenez backseat, vous avez accès au replay immédiatement après la fin de l'émission. Vous n'avez pas à attendre jusqu'au dimanche. Justement, il n'y a pas la partie concert dans la rediff. Alors, j'ai cru voir qu'on avait eu un claim de droit d'auteur. C'est possible. C'est possible, je ne saurais pas vous dire. Peut-être que sur YouTube, la partie concert passera pas, c'est possible. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas encore vu ça, je vous avoue. C'est toujours le problème avec la musique, sur les internets. On l'a pas mise par sécurité. Ouais, non, mais t'as eu raison, Pemf. Merci. Pardon, ça fait partie des trucs, je vous ai entièrement fait confiance. Pemf, donc, dans le chat, qui s'occupe des réseaux sociaux sur Backseat, qui s'occupe aussi du montage et des rediffs. T'as eu raison de pas le mettre, parce que si on peut éviter de se faire strike, la chaîne, pour des histoires de droits d'auteur, ce serait bien. Est-ce que tu gères la fatigue? Ça fait beaucoup pour une rentrée. Ça va. Ça va, mais c'est la raison pour laquelle je reste à la maison. J'avais prévu d'aller à l'Ascension à Lille aujourd'hui, mais je me suis dit non, il faut que je me ménage. J'ai encore beaucoup d'émissions. Le mois de septembre n'est pas fini, on n'est qu'à la moitié du mois, donc si je commence à faire des allers-retours à Strasbourg et à Lille la même semaine, je vais juste me cramer la santé. Donc tranquille. Donc aujourd'hui, je reste à la maison, peinard, dodo. Demain, j'ai une réunion. Salut Jean, bravo pour avoir organisé cette émission hier. Ça a dû être un gros challenge et un tel dispositif est invité. Bravo à toute l'équipe et cœur à Sacha qui s'en est pris plein la tronche. Merci à toi. Oui, c'était un challenge. Oui, c'était un challenge. Et c'était cool. Et on est d'autant plus content du résultat que ça vous plaît. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Ouf. Tu vas devoir y retourner à Strasbourg pour Backseat. Ouais, enfin, pas tout de suite. Mélenchon parlait fort hier, j'ai encore mal à la tête. Ah oui, il parlait très très fort, oui. C'est un euphémisme. J'ai quand même senti un chat très hostile, ça m'a étonné. Bah écoute. Comme d'hab, hein. Ouh. En même temps, les malentendants parlent fort. Oui, j'ai vu la blague sur Twitter. Les gens qui disaient, oui, mais c'est juste parce qu'il est sourd d'une oreille qu'il parle fort. Oui. Oui. Certes. Votez Le Pen si Mélenchon vous fait gerber. La gauche a ça de pratique qu'elle offre d'autres opportunités avant le vote Le Pen. Bon, une fois que la division de la gauche a, au moins, la chance c'est que, voilà. Si vous avez le cœur à gauche mais que vous aimez pas trop Jean-Luc Mélenchon, disons que vous avez une offre qui se présente, qui vous permet de, voilà. Il n'y a pas que deux bulletins sur le bureau de vote, on va dire ça comme ça. Merci Beggy pour ton resub. Un monde de possibilités, ouais. Jean Massier prône la désunion, t'es anti-mélenchonisme aigu. C'est ça. T'es un fasciste en fait. Mon pauvre Jean, la nuance dans le chat, c'est toujours pas ça. C'est pas grave. C'est un chat, hein. C'est pas grave du tout. Tu peux clarifier l'histoire des deux NPA? Bah, le NPA, l'année dernière, a connu une scission. Le parti s'est divisé en deux, avec deux entités séparées, qui revendiquent toutes les deux s'appeler le NPA. Voilà. Donc du coup, il y a deux NPA. Ils étaient deux au NPA, maintenant ils sont un chacun. Vous croyez qu'on a le temps d'être nuancé et poli? Ah non, non, mais te presse pas. Hein. Te presse pas. C'est chacun sa stratégie pour gagner des voix, convaincre des électeurs. Il n'y a aucun problème. T'as lu KG et Piketty? Non, non, j'ai pas eu le temps de. Non, non. Monde de bâtard, on est deux. On peut avoir Alain en chroniqueur, par contre. Alain, il était extraordinaire, il était tellement sympa. Alain, 50 ans de fête de l'Huma. Je vais te le retrouver, Alain. C'est lui, Alain. Alain, la légende. Et effectivement, Alain, 50 ans de fête de l'Huma, et ouais, il nous racontait qu'à 25 ans, il est venu à la fête de l'Huma, il a commencé à filer des coups de main, et puis il a sympathisé avec les gens, et du coup. Et du coup, en fait, il est rentré à la rédac de l'UMA. Il est devenu journaliste. Il a pas fait d'école de journalisme et tout. Il a été journaliste à l'UMA pendant des années. C'est ce qui expliquait Maud, d'ailleurs. C'est une des grandes particularités de l'UMA. C'est que c'est une des rares des rédactions nationales d'un quotidien dans lequel il y a des journalistes qui ne sont pas des journalistes, enfin, qui viennent de milieux populaires, qui sont devenus journalistes par la force des choses et tout. Et Alain, c'est exactement son cas. Et lui, 50 ans de fête de l'UMA. Il était super touchant, Alain, quand tu nous racontais les concerts qui l'ont vachement ému. Tu sens évidemment que c'est pas sa soupe, la musique d'aujourd'hui, mais il s'en branle. Enfin, tu vois, il te parlait de la musique des années 70-80. Ah, dis-moi, les concerts de Johnny. Ah, mais c'était Johnny, c'était extraordinaire et tout. C'était trop touchant. Tu penses pas que les dernières questions auraient pu être mieux formulées, moins agressives pour ne pas pousser justement à avoir cette attitude défensive et à la fin de se sentir une question à la CNews ou BFM TV? Tu parles de quelle question? Le moment où je lui demande est-ce que ça veut dire quoi faites mieux? Tu trouves ça trop agressif comme question? De toute façon, vous commencez à me connaître. Hein. Quelle que soit la manière que j'ai de poser les questions, et quelles que soient d'ailleurs les questions que je pose, ça conviendra pas à au moins une bonne moitié du public. Je suis soit trop agressif, soit pas assez. En fonction des gens, c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est une bonne question de conclusion. Non, non, mais je trouve que comme Maud avait des très. Après, Maud, c'est une excellente journaliste, hein, directrice de la rédaction de l'UMA. Elle avait des très très bonnes questions quand elle pose la question. La manière habile de parler de Ségolène Royal en disant, indépendamment de la personnalité de Ségolène Royal, quand vous tendez les bras à une initiative lancée par Ségolène Royal, est-ce que ça veut dire que votre dynamique d'union que vous appelez de vos voeux, va jusqu'au personnel politique qui a fait le hollandisme. Peut-on faire de l'anti-hollandisme avec les gens du hollandisme, qui ont fait le hollandisme? Ségolène Royal est un très bon exemple. Et c'était une bonne question. Bon, ça l'a énervé. Il s'est énervé d'un coup. Il a mis une charge dans la tête de Roussel. Et il a dit à Maud, quand tu me cherches, tu me trouves. Ce que j'ai trouvé particulièrement. Ouais, vas-y, mollo quand même. D'où tu dis quand tu me cherches, tu me trouves à quelqu'un comme ça sur un plateau, tu vois? Il n'était pas du tout énervé. Ah si, 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 cette question-là, c'est celle où il a commencé à s'énerver. C'était la question, la manière de parler, c'était la question sur Ségolène Royal, où il s'est énervé. Il le dit pour Roussel, pas pour Maud, ne sois pas de mauvaise foi. Il le dit clairement pour Maud. Il le dit clairement pour Maud. Et j'en ai débriefé avec lui en sortant de plateau. Je lui ai dit, c'est pas ouf la manière que t'as de parler aux femmes. Il m'a dit, oh, m'en fous. Qu'est-ce que tu veux? Et après, il m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un exemple? Je lui ai dit, bah, je sais pas, le moment où tu dis à Maud Verniolle, quand tu me cherches, tu me trouves. Il me dit, oh, mais c'est parce que je la connais, ça. Ouais. Ok, si tu veux. Ok. C'est son rapport au journaliste. Oui, non, mais bien sûr. Bah, d'ailleurs, il l'a expliqué plus tard quand on est arrivé sur la question de l'indépendance des médias, la liberté de la presse et de son rapport aux journalistes et à la stratégie du clivage. Il l'a très bien dit, hein. Ouais. Il y a les médias amis, dont l'UMA, selon Jean-Luc Mélenchon, et les autres médias qui sont la seconde peau du système néolibéral, etc. Ce qui est sa manière à lui de voir les choses, hein, qu'il a expliqué hier, sur le plateau. Et bah, si du coup ami-ami ou ami-ennemi, j'en sais rien. Et je m'en branle pas mal. T'avoue que. Question de savoir si Jean-Luc Mélenchon considère qu'on est des amis. Comme dirait un grand homme, ça m'en touche une. Le JDG a pris cher. Le JDG en a encore pris pour son grade. Un moment, t'as rebondi, JLM, vous n'acceptez pas la critique. Et vous acceptez la critique? Ah, tu l'as entendu? Je savais pas si vous l'entendiez ça. Parce que moi, j'entendais tellement rien. J'ai l'impression de l'avoir dit très bas. Un moment. Mais oui. Non, mais putain, je savais pas du tout si vous l'entendiez ou pas. Parce que oui, il y a un moment où, je sais plus, il dit ça à Maud, ou je sais pas s'il parle des communistes en général et tout. Il dit, bah, vous acceptez pas la critique. Et ben, je rien, je fais, ah, parce que vous. Dixit, le monsieur tout rouge, là. C'était vraiment, ça m'est sorti d'un seul coup. C'était pas une relance, hein. Je voulais pas l'empêcher de parler et tout. Mais vraiment, ça avait sorti d'un coup. Ah, parce que. Ah, bon, oh, si tu veux, ouais. D'accord. Ça s'est entendu. D'accord. Bon, bah, vous l'avez entendu. Bon, bah, voilà. L'étalonnage était assassin. C'est parti tout seul. Oui, non, mais c'est. Oui. Oh, on peut rien vous dire, vous les journalistes, vous acceptez pas la critique. Ouais, ouf, oui, à qui le dites-vous? Pourquoi t'as quitté le plateau pour aller pisser? Pour aller, parce que moi, ça faisait 3h30 d'émission quand même, hein. Pour aller pisser, pour aller chercher de l'eau et pour aller régler un problème de micro, parce qu'on n'avait toujours pas de micro pour Usul et ça m'énervait. Parce que j'avais pas de réponse, l'équipe technique me répondait pas et ça me saoulait, j'avais pas d'oreillette. Ça, plus jamais, hein. Plus jamais je fais une émission sans oreillette. On se l'est dit avec l'équipe de Réal, on a fait, bon, c'est bon, on a compris, en fait, les émissions sans oreillette, c'est hors de question. Il faut absolument que j'ai un lien direct avec la Réal, qu'on puisse se parler pendant l'émission et qu'ils puissent me donner des infos. Là, j'avais pas d'infos, je savais pas pourquoi on n'avait pas de micro, ça me saoulait. Usul pouvait pas rebondir, il pouvait pas poser de questions, ça me saoulait. Et du coup, je suis allé voir. Oula. Merci Bémartil. Et oui, je suis allé chercher de l'eau parce que Jean-Luc Mélenchon était mort de soif aussi. Il faisait une chaleur à crever et tout, puis il parlait fort. Par ailleurs, il parlait fort. Et ça l'a assoiffé, et c'est normal. Et du coup, à un moment, il a fait un signe en mode est-ce que tu peux me passer de l'eau? Il y avait une petite bouteille, du coup, on lui a filé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'avait de bouteille. Je fais putain, merde. Et comme j'avais pas d'oreillette, que du coup, je pouvais pas demander à la régie pouvez nous apporter de l'eau sur le plateau, s'il vous plaît, ce serait cool. Vous pouvez nous apporter un micro pour Usul, etc. Sur mon ordi, j'ai mon Google Doc sur lequel j'ai le déroulé de l'émission qu'on a préparé, etc. Avec tout le déroulé minuté et tout. Et du coup, je discute avec la régie via le Google Doc. Ils sont connectés sur le même Google Doc. Et donc, du coup, je peux leur écrire un message en mode machin. Mais c'est beaucoup moins pratique qu'une oreillette. Et donc, du coup, à un moment, je me suis levé. Je fais non, mais vas-y, je vais y aller. Il y a Adèle. Du coup, il y a Adèle qui m'a croisé dans les backstage. En pleine émission, comme ça, elle tourne la tête, elle me voit. Je lui fais ça va. Elle me fait mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, t'es pas en plateau. What the fuck? Non, mais j'y retourne, t'inquiète Adèle, je suis de passage. Excusez-moi, je retourne en plateau. Excusez-moi, c'est mon émission, j'arrive. Pourquoi autant de bourgeois à la fête de l'Huma? Eh bah, ben, va leur dire que c'est des bourgeois à la fête de l'Huma. Il est 16h13. Ça finit demain la fête, t'as le temps, hein. Tu peux prendre un train et tu peux aller leur dire directement. Vas-y. Mélenchon a clairement tenté de gagner des points auprès d'Usul et de ses fans. Oui. Enfin, en avait-il vraiment besoin? En avait-il vraiment envie? Non, je sais pas. Puis tenter de gagner des points, j'ai envie de dire, une personnalité politique, quand tu l'interviews, par définition, il essaye de gagner des points. Enfin, je sais pas, il défend ses opinions. Jean-Luc Mélenchon a défendu ses opinions, il a dit ce qu'il pensait, il l'a dit clairement. Voilà. T'as pas trouvé ça indécent que Sacha se qualifie de précaire en parlant de son métier de journaliste quand on sait ce que c'est la vraie précarité? Eh ben, va expliquer aux journalistes précaires ce que c'est que la vraie précarité. Pareil, ils seront ravis de t'entendre. Leur expliquer. Je crois pour Mélenchon que ce serait bien de gagner des points auprès de ceux qui ne sont pas encore acquis à sa cause. Ah. Ce que je retiens, c'est que les syndicats n'ont jamais causé avec les partis politiques pendant la réforme des retraites. Non, mais ça, Jean-Luc Mélenchon, il est revenu sur un point qui d'ailleurs était un point intéressant et je suis content que... Je crois que c'est Emilio qui lui a posé cette question. Non, c'est Usul. C'est Usul qui lui a posé cette question, effectivement, sur la séquence de la réforme des retraites, où Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, a tenté d'organiser une manifestation nationale contre la réforme des retraites, alors que les autres partis de la NUPES disaient, bah, en fait, non, c'est l'intersyndical qui donne le tempo, c'est l'intersyndical qui choisit les dates, et on se range derrière l'intersyndical. C'est d'abord une mobilisation syndicale et on fait les choses dans l'ordre. Les partis soutiennent l'action des syndicats. Et donc voilà, donc il y a eu une bisbille mais dont on avait parlé l'année dernière sur Backseat. Abonnez-vous, j'ai envie de dire. on avait vraiment parlé, et c'est vrai que c'était intéressant cette question de Charles Damiens et tout, c'est un peu technique. Et du coup, oui, Jean-Luc Mélenchon est revenu dessus. Il est revenu dessus, et c'était intéressant d'ailleurs sa réponse parce qu'il a clairement dit. Sur Backseat, je sais pas s'il l'avait dit aussi clairement dans d'autres interviews d'ailleurs, qu'il avait un désaccord personnel avec Philippe Martinez. Mélenchon-Martinez, clairement, ça ne passe pas. Il a très très peu apprécié le fait que Philippe Martinez tienne une distance entre les partis politiques et les syndicats en disant les partis ils ont leur vie, nous on est les syndicats, on a nos adhérents, on s'occupe de nos luttes, etc. Jean-Luc Mélenchon l'a peu apprécié. Et probablement à raison, d'ailleurs, je critique pas, mais en tout cas, ce qu'a dit aussi Jean-Luc Mélenchon sur le plateau hier, c'est à quel point il appréciait Sophie Binet. C'est Maud qui m'a dit, putain, c'est un quasi-adoubement. C'est un quasi-adoubement de Sophie Binet, elle est formidable. Les relations sont bien mieux depuis que Sophie Binet a remporté, depuis en fait que Philippe Martinez a été mis en minorité au congrès de la CGT. C'était étrange, il s'énervait tout seul alors qu'il n'était pas en terrain hostile. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y avait un décalage qui était curieux et dont on a parlé après. Là aussi, on a débriefé, on a passé la soirée à discuter avec plein de gens qui ont regardé l'émission et tout. Merci d'ailleurs à toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était vraiment un plaisir de vous voir et tout. Enfin, vraiment, c'était trop trop cool. Toutes nos petites discussions étaient très chouettes. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais, c'est bizarre. Il était en hostilité avec le plateau alors que le plateau n'était pas un dispositif hostile. C'est... En tout cas, clairement, nous, on ne l'a pas du tout construit comme un dispositif hostile, mais lui, c'est comme ça qu'il semblait l'avoir pris. Bon, et bien, encore une fois, dont acte. Il était sur le terrain de Roussel. Il n'était pas sur le terrain de Roussel, hein. Il était sur le plateau de Baxit à l'Agora de la Fête de l'Huma. Roussel n'était pas là. Mais après, c'est aussi la question de... Est-ce qu'une critique est une attaque ? Est-ce qu'une question est une attaque ? Et... Et tous les hommes politiques n'ont pas le même rapport, effectivement, aux journalistes, aux interviews. L'Humanité, c'est pas le journal du PCF ? Vraie question. Non, l'Humanité n'est plus le journal du PCF. Il l'a été pendant des décennies. L'Humanité est une rédaction indépendante du PCF. Au demeurant, vous pensez vraiment que si l'Humanité, c'était le journal du PCF, il m'aurait laissé inviter Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humain ? C'est ça, l'indépendance des rédactions. Dirigé par un sénateur PCF. Le directeur de l'UMA, qui n'est pas le directeur de la rédaction de l'UMA, est un sénateur PCF, ouais, que je vous ai présenté, Fabien Gay. Avant, l'UMA, c'était l'organe officiel du PCF, mais plus depuis les années 90. C'était le, oui, l'organe central du Parti communiste français, ou je sais plus comment il l'appelait, mais oui, c'était ça. C'était vraiment le journal du parti, hein, pour le coup. C'était jusque dans les années 90 que ça a eu lieu, ça? Peut-être, je sais pas, je saurais pas te dire. En tout cas, grave contente que Baxit reparte pour une nouvelle saison. Bah, moi aussi, trop content de cette nouvelle saison. Comment elle va, Sacha, by the way ? Elle va bien, Sacha. Elle va bien. Satisfait de la durée de l'interview ? Bah ouais, quand même, on a fait une heure d'interview, hein. Ouais. Oui, non, la durée, c'était bien. Quelle émission pour une reprise quand même. Eh, ça va, hein. On saoule pas de votre gueule, hein. En direct de la Fête de l'Huma, dans l'Agora, avec Jean-Luc Mélenchon en invité politique. C'est quand même une belle émission de reprise de saison. On va tâcher d'être au niveau maintenant, hein. Comment Sacha a-t-elle vécu l'échange par rapport à l'attaque personnelle qu'elle a eue contre elle et contre la grève au JDD ? Elle s'y attendait, Sacha. Elle s'y attendait. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Je suis allé la voir après, je lui dis ça va, elle m'a dit oh, non, je m'y étais préparé. Hein. Non, elle m'a dit oui, je m'étais préparé, peut-être pas à ce degré-là. Évidemment, je m'attendais pas à recevoir des fleurs hein, de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais puis de toute façon, je lui en demandais pas. Mais le niveau était peut-être un peu plus important que ce à quoi je m'attendais. Elle avait l'air sonnée. Sacha? Ah, je sais pas. Je j'ai pas eu l'impression, moi. Après, c'était le jeu un peu. Ah oui, non, 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 mais complètement. Hein. C'est pour ça qu'elle s'y était préparée. Hein. Elle a défendu le JDD. Oui, elle a défendu la rédaction. Avec laquelle elle a fait grève pendant un mois, ouais. Sacha a l'air solide, mais très solide, Sacha. Et donc voilà, donc elle voulait vous annoncer aussi que elle rejoignait France Télévisions pour travailler au service des sports. Et ça, c'est chouette. GGL, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Pourquoi elle a dit qu'elle allait devenir un chien du service public? Hein? J'ai pas souvenir. Elle a dit esclave du service public. Pourquoi elle a dit ça? Je sais pas. Elle a dit esclave du service public. C'est une ref? J'ai pas la ref. Hein. Si c'est une ref, j'ai pas la ref. Tu confonds pas quand elle a parlé d'amener son chien à France TV. Ah bah si, Scott, son chien. Je sais pas. J'ai pas là, j'ai, non seulement j'ai pas l'extrait en tête dont vous parlez, et je sais pas. Je sais pas. Elle va pouvoir couvrir les JO. Ah bah ouais, c'est cool. Bah pour une journaliste sportive, c'est quand même plutôt chouette d'être journaliste du service public d'un pays qui accueille les Jeux Olympiques. C'est chouette. Super émission hier, j'ai adoré comment Mélenchon a humilié le plateau SOSDEM atroce. Tant mieux. Tant mieux. Content que ça t'ait plu. Très 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 heureux. Va falloir une vidéo arbitrage, ouais. Sacha a des sports de prédilection à ta connaissance? Je sais pas. Non, elle est journaliste sportive sur plein de sports, Sacha, je crois. Ou le foot? Le footeux? Ouais, le foot? Je sais pas. J'ai trouvé ça sympa quand même Mélenchon vous a laissé lui poser des questions de temps en temps. C'était Usul après l'émission qui me disait, bon, de toute façon, quand Jean-Luc Mélenchon il dit j'achève en vous disant, tu sais que t'en as encore pour à peu près 7-8 minutes, j'achève en vous disant. Et là, tu peux préparer ta question d'après. Comme disait Ferrand, c'est nous que vous achevez. Oui, je me souviens, Richard Ferrand, il avait dit ça, ouais, à la tribune. Oui, je me souviens. Y avait un peu un aspect hybride, émission télé vénère et meeting, c'était original. Ah bah c'est la fête de l'humain. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué, ça avait jamais été fait. Une émission sur Twitch à l'agora de la fête de l'humain, avec le leader de la France insoumise dans un contexte de division de la gauche. Ça avait jamais été fait. On a essuyé les plates du truc. Un rare politique qui est en mode plus rien à prouver, plus rien à perdre. Ouais, quand il a dit ça, quand il a dit j'ai plus rien à prouver, j'ai eu envie de le relancer. Alors, le problème, c'est que si tu le relances, si tu le coupes, ça l'énerve, donc je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu envie de le relancer en disant plus rien à prouver ? Ça veut dire que vous n'êtes pas candidat en 2027 ? Mais non, tout soon. Tout soon, la question. C'est intéressant. Ah, c'est une annonce ? Mais non. Lic, lic. Non, alors après, ouais, ça c'est normal, hein, toutes les émissions, après, on avait des questions qu'on avait envie de lui poser, qui étaient. On avait des questions vachement bien. Elle était vachement bien cette interview. Hein. Non, on avait des questions chouettes qu'on avait pu lui poser sur la forme future de la France Insoumise. C'était. De toute façon, on n'avait plus le temps, donc c'est pour ça que je lui ai ma dernière question. C'était une ouverture sur le fait mieux, etc. Mais sinon, on avait envie de lui demander. Puisque vous voulez faire l'union de la gauche, pourquoi ne pas prendre le chemin justement de créer un parti politique de l'union de la gauche ? Sous-entendu avec des adhérents, avec un congrès, avec des tendances à la papa. Et ça aurait du coup reposé la question de la structuration de la France insoumise, de la démocratie interne à la France insoumise, etc. etc. Bon bref, on aurait été reparti pour un truc qui dure une plombe. Comme dirait Usul, on est la fête de l'humain, hein, on adore se poser des questions d'appareil. Il répondait vraiment en mode meeting, c'est dommage, il aurait pu être plus précis dans ses réponses. Oui, après, il avait les avantages et ses inconvénients, effectivement, le mode meeting dont tu parles, il était galvanisé par le public était galvanisé par lui aussi, donc ça fitait bien. Et encore une fois, c'est aussi ça, une émission à la fête de l'humain. C'est-à-dire que si on avait voulu faire une émission en studio, ça aurait été différent. Mais là, c'est une émission à la fête de l'Huma, donc c'est normal ce côté mythique. Je veux dire, un homme politique de gauche à la fête de l'Huma, évidemment qu'il va être dans une logique de... il va pas être en conflit avec le public, c'est pas du tout l'esprit, le public sur place en tout cas. C'était adapté à l'événement. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais quand je vous disais que c'est une émission qui a pour but de vous faire découvrir la fête de l'Huma, vous avez découvert la fête de l'Huma. C'est-à-dire, un homme politique de gauche qui dit des trucs de gauche au micro se fait applaudir. Soyez pas surpris. Merci Footix pour ton Prime. Si t'avais eu le choix, t'aurais pas préféré avoir Jean-Luc Mélenchon sur ton plateau au calme ? Ça pourra réarriver d'ailleurs. Hein. Enfin, il est pas mort. Hein. Ça pourra réarriver, j'espère qu'on aura l'occasion de le réinterroger, de faire un follow-up en fait. Si tant est qu'il ait l'intention de continuer à jouer un rôle en politique... moi ça m'intéresse de le réinterviewer. Et oui, ça dépend des conditions, ça dépend des moments, enfin c'est toujours pareil, hein. Moi je peux réinterviewer des personnalités politiques parce que les contextes ont évolué, parce que les propos ont évolué. C'est exactement la question que lui a posée, qui était une très bonne question, de Maud, qui lui a dit il y a un an vous reprochiez à la primaire populaire de péter les burnes à tout le monde avec leur union de la gauche, union de la gauche, union de la gauche. N'êtes-vous pas devenu ce que vous critiquiez hier ? C'est une bonne question. C'est une porte ouverte à la réflexion, à l'évolution, etc. Machin. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Quoi le rapport ? Oui, donc voilà. Donc typiquement, raison pour laquelle c'est intéressant d'interviewer des politiques les uns après les autres. Enfin, pardon, de réinterviewer des politiques plus tard, c'est que les contextes évoluent, que les positions évoluent, et parfois avec des virages à 180 degrés. Il y a la mauvaise union et la bonne union, faut pas confondre. La bonne union, c'est... Compléter cette phrase. On en est encore à parler de la primaire populaire? Bah, je sais pas. Moi, j'interviewe des gens qui demandent l'union, hein. Il y a un an, c'était la primaire populaire. Aujourd'hui, c'est un certain Jean-Luc Mélenchon. Je suis content d'interviewer les deux. Ça m'intéresse. Leurs arguments sont souvent relativement similaires, d'ailleurs. Pas sur les mêmes méthodes, effectivement. La primaire populaire, à l'époque, plaidait pour une primaire, d'où son nom. Jean-Luc Mélenchon a été assez clair sur son refus absolu des primaires, des logiciels primaires. Comment voulez-vous que Mélenchon défende les journalistes? Il se fait bâcher H24. C'est, enfin, tu vois ça comme tu veux, hein, je veux pas te, voilà, c'est pas un bashing, c'est une question. C'est une question. Tiens, c'est intéressant, monsieur Mélenchon, vous avez évolué sur la question de l'union de la gauche. Il y a un an, vous ne défendiez pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie? Pouvez-vous nous expliquer, etc. C'est pas un tacle, c'est pas une attaque, c'est pas une méchanceté, c'est pas une. C'est une question qui invite à une réponse. Tu récoltes ce que tu sèmes. Bah, je sème des questions, je récolte des réponses. Et encore une fois, je suis pas responsable des réponses, hein, Quoi, les questions ne sont pas préparées pour convenir à l'interviewer? Ah bon? Ah merde! Scandale! Moi, je trouve que c'était une des meilleures questions-réponses de la soirée. Ouais, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'était une bonne question et la réponse, c'était une bonne réponse. Enfin, il a été très clair sur ce qu'il pense, sur comment il le défend, etc. L'union, oui, mais sur la radicalité et la sortie du système capitaliste et le logiciel de primaire, jamais. Voilà. Il a été très clair. La stratégie de Muluche semble efficace quand on lit certains dans le chat. Et oui, mais c'est pas. Enfin, oui, mais c'est pas. Enfin, c'est pas sur les chats Twitch que se joue le truc. C'est dans les urnes. Donc ça va être intéressant. D'ailleurs, les élections européennes vont être intéressantes de ce point de vue-là. L'union sur la radicalité. Il parle pas du féminisme radical en tout cas. Non mais la radicalité, ça se débat, ça se discute. C'est la fête de l'UMA. Ça fait un siècle qu'on discute de la radicalité, de ses limites, de sa méthode, de ses... C'est ça la fête de l'UMA. Ça se joue pas dans les sondages Twitch. Les élections européennes sont à analyser en prenant compte qu'il y a moins de votants que pour les présidentielles. Ouais, et qu'il y en a plus qu'aux législatives. Il y a plus d'électeurs aux européennes qu'aux législatives. C'est surprenant, mais ouais. C'est quand déjà les européennes? C'est en juin prochain. Attends, c'est en juin? Oui, je crois. Ouais, ça, du 6 au 9 juin. J'ai raté le début du débrief, tu t'es remis de ton émission? Oui, de l'émission, oui. De la bière après l'émission, au moins. Mais c'est pas grave, ça c'est contextuel. Ça c'est. Les communistes, c'est pas les derniers sur la fête. Hein. Oh putain. On dirait presque qu'ils ont un siècle d'expérience en matière de teuf. T'as fait des concerts? Non, mais alors en fait, faut bien comprendre que la fête de l'UMA le soir, ça se transforme en giga-teuf. C'est-à-dire que chaque stand balance la sono, chaque stand envoie la purée en termes de zik, et chaque scène a un concert différent, tous plus cool les uns que les autres. Genre, tu peux pas faire 5 mètres sans avoir un son plus cool que le stand précédent, etc. Donc voilà, donc non, j'ai fait la teuf sur un stand, je sais même plus lequel d'ailleurs. Je crois que c'était le Parti communiste, mais je sais plus quelle section. Je sais pas si Jean en a parlé, mais Jean-Luc Mélenchon a lâché une sacrée exclue concernant la CGT et Martinez durant la période des retraites. Non, c'est pas une exclue, on le savait. On le savait, attends, on l'a analysé plein de fois sur le plateau de Baxit. Les difficultés entre l'intersyndicale et Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise pendant la période de la réforme des retraites, ça a été analysé. Hein. Les divisions de la NUPES sur la question de la stratégie adoptée vis-à-vis du mouvement syndical, ça on le savait. Hein. Qui se parlaient pas, qui se coordonnaient pas sur les dates. Ils se parlaient, ils étaient juste pas d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah du coup, ça faisait des réunions assez rapides. Hein. Tu me diras, bon. Quand Martinez était passé à Baxit, il avait dit que c'était un choix, que les syndicats ne se mélangent pas aux politiques. Ouais, il l'avait expliqué. Eh, c'est vraiment une bonne émission, Baxit. Hein. Parce qu'on a Martinez qui est venu nous expliquer sa position, on a Jean-Luc Mélenchon qui est venu la critiquer, cette position, à chaque fois avec des arguments hyper intéressants. Eh, si ça vous donne pas à réfléchir, franchement, je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Hein. Sophie Binet aussi en a parlé, sur le plateau de Baxit. Faire de plus. Alors si, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez soutenir l'émission Baxit en participant à son financement avec un don mensuel sur KissKissBankBank. Rejoignez le club Baxit qui vous donne accès à plein d'exclus cool. Et vous aussi participez aux belles personnes qui financent l'émission. Ça manque l'avis de trois éditorialistes de droite, je trouve. Bah, faudrait savoir. Enfin, pas toi, mais bon. Vous voyez quand je vous dis que. Mais bon, mais c'est normal. Merci Niru pour ton prime. Mélenchon a expliqué que pendant la retraite, LFI a bloqué à l'Assemblée pour donner du temps au mouvement syndical. C'est pas une exclue, ça? Ben non. Non, non. Enfin non, pareil, on le savait. Il le disait à l'époque. Enfin, il le disait assez clairement, les insoumis, sur la stratégie d'obstruction. Ils le disent. Si, mais non. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas, mais ça se trouve, il a lâché une dinguerie exclusive sur mon plateau et je m'en suis pas rendu compte, hein. Ça m'étonnerait quand même. Non, je sais pas. Qu'en pensent les syndicats de patrons de la scission syndicat parti politique de gauche? Je pense que les syndicats de patrons, ils se débouchent une deuxième bouteille de champagne. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas ce qu'ils en pensent. Ça les fait marrer, ça les arrange, je sais pas. Mais c'est une bonne question, tiens. D'ailleurs, putain, oui, ça fait partie des interviews qu'on voulait faire, le nouveau patron du MEDEF, là, qui a été élu. Hop. Justement, sur la question du... Patrick Martin. Patrick Martin. Sur la question du dialogue social, sur la question des rapports, hop là, des rapports avec entre Emmanuel Macron et les corps intermédiaires. Bah voilà, tiens, voilà une bonne question au patron du MEDEF. Et vous, la charte d'Amiens Pardon, excusez-moi, je suis éclaté. Hein. Vous avez bien compris hein, que je suis en gueule de bois de l'espace, que je suis fatigué, que j'ai mon cerveau qui fonctionne au ralenti. Est-ce qu'il t'a convaincu sur sa position concernant les primaires? C'est-à-dire? Non, enfin, je connaissais sa position, il l'a réexpliqué, il avait. Enfin voilà. Merci Yggdrasil pour les 5 subs, dis donc. Merci pour les 5 subs.
Je possède des thunes.
Voilà.
Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Pas trop fort, pas trop fort. Pas trop fort, les enfants, papa est fatigué. C'est au moment de la gueule de bois que tu te dis plus jamais autant de bière jusqu'à la prochaine fois. C'est ça. Ah non, moi je me dis même pas ça. Non, en vrai, moi je me dis que ça m'a fait un bien fou de retourner à la fête de l'UMA. Que la fête de l'UMA, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, vous êtes de gauche, vous êtes pas de gauche, etc. Whatever. C'est un plaisir fou, la fête de l'UMA, parce qu'il y a juste des sourires sur tous les visages. Il y a cet esprit très communiste de camaraderie. Y a cette solidarité, il y a cette bonhomie, il y a cette envie que tout se passe bien. Et t'es juste sur un festival où, pendant 3 jours, t'as juste des gens adorables de toute la France qui se réunissent pour bien bouffer, bien danser et bien débattre. Franchement, voilà, c'est un petit miracle qui a lieu chaque année. Moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai juste rencontré des gens adorables toute la soirée, toute la journée. J'ai fait une émission que je kiffe. J'ai lancé la troisième saison de cette émission, j'étais content de vous la proposer. Il y avait une ambiance de feu dans l'agora, les gens étaient absolument adorables, l'équipe était folle et tout. Enfin, vraiment, moi j'ai trop trop kiffé ma journée d'hier. C'était super bien. Et voilà quoi. C'est un peu le Disneyland de gauche. Oui, oui, si tu veux, oui. Puis on retrouve les copains et les copines. Mais oui, non, mais voilà, c'était trop bien. Et du coup, ouais, alors pareil, j'ai reçu plein de textos de potes, de gens que je connais, etc. Me dire, ah, t'es à la fête, viens, je suis sur le stand de machin. Et moi, je suis en mode, mais je sais même pas où il est ton stand de truc. Moi, je suis au stand de machin. Pire truc à la fête de l'humain pour se retrouver. Je suis devant le PCF de la Gironde, toi, t'es où? Bah, je suis devant le PCF du Bas-Rhin. Ok, et donc on se retrouve où? Bah, je sais pas. Tu vois où il est, le PCF de Seine-Saint-Denis? Non. Bah, viens, on le trouve et on se retrouve devant. Ok. Donc voilà. Je suis avenue Jean Jaurès, c'est ça. Tu prends l'avenue Julian Assange, tu tournes à gauche sur Léon Gambetta et t'arrives sur la place Jean Jaurès. D'accord, j'arrive. Bienvenue à Gauche Hollande, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, on en parlait avec Fabien Gay, donc le directeur de l'UMA. Il y a plein de gens de droite qui vont à la fête de l'UMA. Hein. C'est Bolchegui, quand il préparait sa vidéo pour l'UMA, qui me disait, il y a des gens de droite qui lui ont dit, hors caméra, qui lui ont dit, en vrai, on est un peu jaloux. Quand t'es de droite, tu te dis, putain, franchement, les gens de gauche, merde, ils savent quand même faire des trucs cool. Hein. Bah ouais, démerdez-vous. Il lui avait dit, oh, ça va, vous avez Roland Garros, vous. Hey, chacun son truc cool. Hein. Voilà. Fête de l'UMA versus Roland Garros, j'en préfère un perso. Et après, tu peux aimer les deux aussi. C'est possible, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, c'est ça qui est beau. J'ai invité des collègues de droite à venir à la fête de l'UMA. Ah, mais les gens de droite, ils kiffent la fête de l'UMA, enfin ceux qui y vont. J'ai été une fois à la fête de l'UMA, tout seul depuis la Belgique avec ma tante. J'ai passé un super week-end. Mais trop bien, mais c'est trop trop bien. Fête de l'UMA, tu viens avec ta tante sous le bras. Ou mieux, tu viens sans ta tante et tu trouves une tente dans laquelle dormir. C'est un peu ce que j'ai fait. Je vous mentirais en vous disant que c'est ce que j'avais prévu dès le départ. Il y a quand même un moment où j'ai dit... Ouais, non, laissez tomber, je rentre pas avec vous, je reste. T'es sûr, hein? Parce que là on prend la voiture et tout, on y va. Non, mais c'est bon, je reste, je me démerde pour rentrer à Paris. Ça a sexé. Alors, moi, non. Mais, bah, comme c'est des tentes, j'ai oui sexé. Je sais pas dans quelle tente autour de moi. De toute façon, ça tournait pas mal dans ma tête à ce moment-là. Donc j'avais un peu le sens de rotation. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui faisaient l'union de la gauche. Il y a eu union. Il y a au moins une. Après, je sais pas, j'ai dormi, je ronflais, donc j'entendais plus, mais... Voilà. Ça, t'inquiète, ça tournait dans les tentes aussi. Voilà, c'est... plaisir du camping, hein. Ça renouvelle l'électorat. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait des petits camarades. T'as des couleurs au visage. Bah écoute, tant mieux, parce qu'en même temps, ouais, putain, il faisait une chaleur. Mais c'était trop bien. C'était trop trop bien. Il faisait chaud, il faisait bon. Il faisait pas trop chaud. Si, quand même. Non, on avait du soleil et ça, c'est cool. Il n'y avait pas de la gadoue partout et tout. J'ai adoré l'interview avec Mélenchon, je l'ai trouvée très pertinente et intéressante. Très pertinent et intéressant, très bien, tant mieux. Tu l'as trouvé comment, Jean-Luc Mélenchon? Je l'ai trouvé fidèle à l'état dans lequel est la gauche actuellement. Il avait quand même un degré de colère. Un brin supérieur à ce à quoi je m'attendais. Énervé et tout rouge. Oui, voilà. Ouais. D'ailleurs, il l'a dit lui-même à un moment. Il dit, je sais pas pourquoi je crie. Vous avez entendu à ce moment-là, je dis, bah, c'est une bonne question, ça. C'est vrai, ça, pourquoi vous gueulez, en fait? Les micros HS d'Usul, c'était voulu. Bah évidemment, oui. Bien sûr. Ouais, c'était coordonné avec Usul, hein. Je lui ai dit, ah, toi d'ailleurs, tu n'auras pas de micro, je te préviens. Tu n'auras pas de micro. Tu feras des têtes. Tu vas-y, fais des têtes. Mais non, bien sûr que non, c'était pas voulu. Il y avait un bug sur un des micros, je sais pas pourquoi. Et on a essayé de trouver des solutions, finalement, on n'en avait pas. Toujours faire passer Jean-Luc Mélenchon pour un colérique challenge. Oui. Oui. Peut-être que c'est moi qui exagère et qui, de manière mesquine, le fait passer pour un colérique. Peut-être. Peut-être que le challenge n'est pas si difficile que ça. Vous l'avez bien provoqué. Peut-être. Écoute, j'en sais rien. Selon tes standards à toi. Peut-être. Non, non, mais peut-être. Je trouve qu'il y avait quand même un chouïa de différence dans notre manière de poser les questions. Et je sais pas, une Apolline de Malherbe ou un Pascal Praud. Je sais pas qu'un autre intervieweur, tu vois. Mais ok, peut-être. Il fallait pas le chercher. Il était zéro en colère, faut arrêter. Y a une gradation. Voilà. Zéro est probablement pas le meilleur. Peut-être un tout petit peu au-dessus de zéro. J'avoue, j'ai pas encore vu l'émission. En fait, j'ai l'impression qu'il a tellement eu affaire à des plateaux malveillants que maintenant il assimile les deux d'office en mode un peu PTSD. Ouais, ça c'est une discussion que j'ai eue avec je sais plus quel journaliste de l'UMA après qui me disait ça et je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, il est tellement habitué à se faire boxer sur des plateaux que c'est possible qu'effectivement. Il attaque, enfin, il aborde les plateaux différemment. C'est possible, c'est possible. Merci Malclem. C'est vrai pour tous les hommes politiques. Non, non, non. Non, Mélenchon s'en prend quand même vachement plus dans la gueule quand il est interviewé sur des plateaux télé que d'autres politiques, hein. Ça dépend des plateaux télé, ça dépend des émissions, ça dépend des périodes, ça dépend des élections, ça dépend plein de trucs, c'est vrai. Mais ouais. Enfin, oui. Mais on sait, enfin, il a aussi un rapport conflictuel aux médias. C'est pas nouveau, ça non plus. Il l'a très bien expliqué lui-même, d'ailleurs. J'ai quand même trouvé qu'il était un poil de mauvaise foi avec Sacha. Pour le coup, non, c'est pas de la mauvaise foi. Non, je pense qu'il était. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il était de bonne foi. Il était très sincère dans son approche de la question du JDD. Ah non, 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 je le taxerais pas de mauvaise foi. Vraiment pas. Un peu trop, peut-être. Les Mélenchon Zouz, c'est quelque chose quand même. Ouais, les Roussel Zouz aussi, hein. Les Le Pen Zouz aussi, les Zemmour Zouz aussi, les Macron Zouz aussi. Oui, mais c'est oui. Les Zouz, am I right? Je me désolidarise d'une partie des Mélenchon Zouz. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il faudrait qu'on organise une grande fête chaque année où il y aurait plein de stands et où on débattrait. Où du coup, on pourrait tous les rassembler et ils discuteraient de stratégie, de tactique, de position et tout. Ce serait chouette. La fête de l'humacier. Ouais. Paul and Chill, je vous rappelle, ça aura lieu le 30 septembre prochain. Mon festival, qui n'aura rien à voir avec la fête de l'humain. Parce que la fête de l'humain est inimitable. Inimitable. Non, non, mon festival, donc, s'appelle Paul and Chill, aura lieu le 30 septembre prochain pour sa première édition, dans une version raccourcie, une version bêta de l'événement. La première édition du festival dans sa version grandeur nature aura lieu l'été prochain. Et les Massiers Zouz. Ah non, par pitié. Ah non, non, je veux pas de Massiers Zouz. Non, 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 s'il vous plaît. Je veux pas de... Non, non, jamais. Tu feras Paul and Chill depuis chez toi? Ah bah non. Bah non, Paul and Chill, c'est sur un lieu physique. Je pense que des fois, il aimerait être attaqué sur sa gauche pendant les interviews. Vous auriez pu lui demander ce qu'il avait mal fait lors de son mandat de député. Pourquoi LFI n'a pas un meilleur ancrage local, par exemple? Non, c'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'il aimerait être attaqué sur sa gauche. Ah non, vous allez encore me dire qu'il va falloir que je fasse le bilan de Mélenchon en disant « Bah alors, les privatisations de Jospin? Vous étiez au gouvernement à l'époque? Vous êtes un peu de droite, monsieur Mélenchon, non ?» Non, mais non, vous êtes chiant. Il n'y avait pas Édouard Philippe à la fête de l'Huma? C'est demain, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est demain. Usul a attaqué Mélenchon sur sa gauche. Sur quelle question, je me souviens plus. Ben, il l'a pas attaqué d'ailleurs, il lui a posé une question, mais... Ah oui, pourquoi on privatise pas Total? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, sur les nationalisations, c'était une bonne question, ça. Oui, oui, c'est vrai. Il était chouette aussi, cet échange-là, c'était cool. C'était très, très cool de la part d'Usul, on l'avait préparé, mais c'était très, très cool d'apporter la question des nationalisations sur la table. Justement, dans le cadre de la question sur les préoccupations populaires de la rentrée, sur les stratégies, etc., c'était assez intéressant. Ouais. Le bruit d'eau derrière est infernal. Ah, vous l'entendez ? Non, vous l'entendez pas, le micro, il module pas. C'est la fontaine à eau du petit chat. Et elle fait du bruit quand il n'y a plus assez d'eau, donc faut que j'en remette. Sérieux, tu l'as entendu, toi ? J'entends R. Non, putain, non, ça me surprend. J'entends pas. Non, mais très bien, si vous entendez pas. C'est vrai que c'est chiant, hein, c'est un petit bruit de petite fontaine à eau, quoi. C'est insupportable. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Rien sur enceinte. C'est léger, mais on l'entend. D'accord. D'accord. Et le chat, il en pense quoi des nationalisations? Plus de croquettes. Bon, plus non, il y a des croquettes à volonté. Pourquoi nous? Les questions, c'était très propre, honnêtement. Les réponses étaient épicées, j'ai aimé aussi. La prochaine fois, faites un truc sur la colorimétrie parce que c'était un peu rouge. Je vous ai raconté l'anecdote, hein. Le réalisateur Nico de l'émission, il y a quelqu'un qui est venu lui dire « Putain, mais il y a un problème de colorimétrie sur la caméra de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il est tout rouge comme ça alors que les autres le sont pas ?» Et Nico, il lui a dit « Ah non, mais il n'y a pas de correction colorimétrique sur la caméra, hein. Il est tout rouge. Va voir dans la salle, hein. Passe une tête, tu vas voir, il est tout rouge. » Effectivement, il était tout rouge. C'est pas une question de couleur de caméra, de... Non, non. C'était l'éclairage, il était moins rouge après. Mais on avait tous le même éclairage, hein. Là, on est dans un chapiteau. Alors c'est vrai que les couleurs du journal L'Humanité, c'est le rouge. Bah, d'ailleurs, il y a le grand bandeau rouge derrière. Le tapis de mémoire, il était rouge. Bah, en même temps, on a fait de l'humain. Hein. On peut pas mettre du bleu, les mecs. Pas déconner non plus. Mais nous, les autres, nous sur le plateau, on n'était pas si rouge que ça. Hein. La chaleur, l'attente, l'excitation. Oui, bien sûr. Et puis bon, il a quand même poussé la voix pendant plus d'une heure d'interview, donc c'est normal que le sang monte au visage, normal. Vous deviez mourir de chaud. En vrai, ça allait, on était en début de soirée. Non, je sais pas, j'essaie de réfléchir, je me suis pas fait la réflexion qu'on avait trop chaud sur le plateau. Je pense que les gens dans le public avaient plus chaud que nous. C'était peut-être l'émotion. Mais laquelle, du coup ? D'émotion. Ça va, tu t'es pas trop senti dépassé, Jean ? Non. Non, non. Non, non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que... Encore une fois, ce qui se passe sur le plateau, et au bout d'un moment, c'est un fait en soi. C'est une information en soi, ce qui est en train de se passer. Donc tu peux pas... J'accepte, je crée l'espace sur ce plateau pour permettre à mes invités de faire ce qu'ils font de l'émission, enfin de faire ce qu'ils font de leur interview. C'est, encore une fois, c'est leur réponse, c'est le ton qu'ils veulent apporter. Je ne peux pas, quand bien même je le voudrais, et je ne le veux pas, mais quand même je le voudrais, je ne peux pas empêcher un invité d'être comme il est. Donc c'est un fait, c'est en train de se passer, c'est sous mes yeux, c'est en direct, c'est en train de se passer. J'y peux rien, et ben je dont acte. Donc non, je ne me sens pas dépassé. Au contraire, j'accepte que ça se passe. C'est vrai qu'on sentait quand même une bonne ambiance. Il y avait de la joie, c'était plaisant à regarder. Oui, mais alors, nous, ça allait bien, et dans la salle, enfin, en même temps, la joie, vous auriez vu le public, la chaleur du public, les gens étaient on fire, et c'était, l'énergie du public était dingue, enfin, c'est, déjà que t'es dans l'esprit fête de l'humain dont je vous parlais, avec cette camaraderie, cette fraîcheur, cette joie, etc., Voilà, en plus, c'était Baxit, les gens étaient trop contents. Il y a plein de gens qui sont venus pour Baxit, il y a plein de gens qui sont venus pour Mélenchon. Bon, l'un dans l'autre. Merci, Walpur. Tes modos étaient un peu trop tendus, par contre, je trouve. Non, moi, je trouve pas. Non, non, ils étaient comme d'habitude. Ça fait 8 ans que c'est les mêmes règles sur cette chaîne. Ça s'est bien passé. En tant que journaliste, comment tu vis ça? C'est un aboutissement, une belle étape. Est-ce que tu arrives à prendre du recul sur la situation? T'aimerais en faire d'autres? Je suis pas journaliste, je suis streamer, mais faut à la limite, oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est un aboutissement? Oui. Enfin, moi, je suis très content. Je suis un peu ému aussi parce que c'est ce que je disais. J'ai envoyé un texto ce matin à Maude, la directrice de la rédaction de l'UMA, pour la remercier parce que moi, j'ai découvert la politique en partie à la fête de l'UMA quand j'avais 14 ans. Donc c'est aussi un souvenir personnel, tu vois, la fête de l'UMA. Et 20 ans après, me retrouver à la fête de l'UMA à animer une émission que j'ai créée sur Twitch en direct de l'Agora de la fête de l'UMA, c'est un peu émouvant pour moi. Donc j'étais très fier, très heureux. Et non, non, je suis content. Et puis surtout, je suis content de vous offrir ça, quoi. Je suis content de vous offrir une belle première émission pour une troisième saison de Baxit, quoi. Jamais j'aurais imaginé, quand on a créé Baxit il y a 2 ans, déjà qu'il y aurait 3 saisons. Et que la première émission de la troisième saison, on la ferait en direct de la fête de l'UMA, avec une déambulation dans les allées de la fête de l'UMA avant l'émission, une interview de Jean-Luc Mélenchon en invité politique, plus un concert en fin d'émission. Genre, jamais j'aurais imaginé ça, tu vois. Et donc je suis trop content, c'est cool. On a encore progressé, on a encore poussé Baxit encore plus loin que ce qu'on avait fait avant. Et c'est cool, moi je suis content. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais fait autrement? Non, de ce qui relève de mon ressort, non. Non, moi je suis très content. Je suis très très content. Peut-être que j'aurais dû être un peu plus proche, enfin accompagner les journalistes de l'UMA dans l'exercice de plateau, parce qu'encore une fois, c'est des journalistes de presse écrite, c'est pas leur truc les plateaux. Les caméras, les éclairages, les micros, ça, à mon avis, ça leur a donné une dose de stress. Que j'aurais mieux dû les accompagner. Bon, ils m'en ont pas voulu du tout, hein, ils ont bien aimé. Non, je sais pas, est-ce que j'aurais fait des trucs différemment? Non, après, il y avait des problèmes techniques, mais ça, j'ai envie de te dire, malheureusement, ça relève pas du tout de moi, ça a été compliqué pour plein de raisons. Mais franchement, non, la déambulation, c'était cool, c'était spontané. On voulait que ce soit spontané, d'ailleurs. C'était une dinguerie, d'ailleurs, les vulves assassines, bonne découverte de mon côté. Ah bah tant mieux, je suis très content. Déçu de la technique? Non, je suis pas du tout déçu de la technique. Compte tenu des conditions dans lesquelles on l'a fait, je suis même assez impressionné du rendu. Je trouve vraiment que les caméras. Alors, en plus, moi, j'avais pas de retour sur le plateau. Hein. Je n'avais pas de retour. Oui, j'avais pas d'oreillette non plus. Alors, ça, plus jamais. Plus jamais je fais une émission sans oreillette. On se l'est dit. Hein. On se l'est dit avec l'équipe technique, avec Nico, avec Val, avec François et tout. On est d'accord que plus jamais on est d'accord. J'avais pas de retour sur le plateau, donc je savais pas à quoi ressemblaient les plans de caméra et tout. Et du coup, le soir, je suis allé checker un peu sur mon téléphone, regarder le replay, et je trouvais ça beau. Et là, du coup, ce matin, j'ai regardé un peu le replay, et putain, ça rend vachement bien. Tu vois, la caméra sur la déambulation, bah,
Je regarde.
hop là, elle bug pas trop. C'est un peu à l'arrache parce que le pauvre caméraman, il a marché à reculons pendant 1 heure. Franchement, ça marche bien. Le son était bon. Malek et Fabien Guez étaient complètement improvisés, ce truc-là. Complètement improvisés. Hein. Là, on était en impro total. Hein. C'était pas du tout censé se passer comme ça. Malek le roi, qui a pris en main le public. Il a fait, t'inquiète, je vais t'ambiancer tout ça. Et je sais pas, il a improvisé comme ça pendant. pendant ce temps-là, sur Twitch, c'était la pause. Lui, il était, t'inquiète, je m'occupe du public. Et je sais pas, il nous a fait une impro pendant 20 minutes. Il a rigolé et tout. Mais vraiment, Malek le roi. il a été mais princier quoi. Donc voilà. Non, je sais pas. Il y avait tout ce que je voulais d'un petit peu à l'arrache. Et il y avait tout ce que je voulais de bien préparé sur le fond, d'ambitieux, de carré, de bien fait. Et je suis déçu qu'on n'ait pas passé plus de temps avec Binge. J'étais très heureux de recevoir Bolchegeek sur le plateau de Backseat. On a écourté un peu cette séquence parce qu'on avait commencé l'émission en retard et qu'on avait un planning quand même hyper précis et très timé. Donc on a un peu raccourci, mais j'étais quand même très content que Binge soit là, qu'il puisse vous parler de culture populaire, qu'il puisse vous parler de jeux vidéo. Et en plus, voilà, donc comme je vous le disais, donc c'est la nouvelle séquence de cette émission. Dans chaque émission, on va recevoir un invité créateur de contenu sur Internet qui va venir nous présenter une association, une cause, une fondation, peu importe, qu'il aime bien, qui lui tient à cœur. Et quand on a proposé à Bolchegeek cette formule, il a dit « Bah écoute, moi ça me ferait super plaisir de... »
Je possède des...
Non. Ça me ferait super plaisir de vous présenter le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Et je lui ai dit « Bah vas-y, let's go, on les invite et tout. » Pourquoi est-ce que les chroniqueurs ne prennent pas la parole pour rebondir sur les paroles des invités? On a parfois l'impression que les réponses glissent sur vous, que vous ne les écoutez pas ou qu'elles ne vous intéressent pas. Ça rend l'émission un peu rigide et froide. Tu fais référence à Usul qui était comme ça? Pendant que j'ai vu que Planchon parlait, Usul était... Ouais. Non, mais... Alors, ça dépend beaucoup des invités, ça. Là aussi, ça dépend beaucoup des invités. Il y a des invités qui sont très partants pour du ping-pong, ce qu'on appelle du ping-pong, du tac-au-tac, de la relance, des trucs énergiques, etc. On en a déjà eu hein, sur Backseat des invités qui sont OK avec ça. Il y a d'autres invités qui sont moins OK avec ça. Clairement, Jean-Luc Mélenchon appartient à la deuxième catégorie. Donc, voilà. T'as pas trouvé Jean-Luc Mélenchon un peu miso face à Sacha et la journaliste de Libé? Oh, t'es méchant. C'est pas le journaliste de Libé, c'est Luma, putain. Non, mais vous êtes chiant. Oh, il fait un partenariat entier. Oh, on pouvait pas confondre Libé et Luma. Oh. Pardon, je confonds. Pas gentil. Et si, j'ai trouvé Jean-Luc Mélenchon un peu inégal dans son rapport aux femmes du plateau et aux hommes du plateau. Et je le lui ai dit. Voilà. T'as fait un partenariat avec Libé aussi. Oui, j'ai aussi fait un partenariat. Mais bon, il y a eu 6 mois d'écart entre les deux, ça va. On peut pas revoir la soirée. Si, on peut revoir la soirée. Vous pouvez revoir la soirée. Vous pouvez revoir l'intégralité de l'émission de deux manières différentes. Soit vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, auquel cas vous avez accès au replay et donc vous pouvez revoir toutes mes émissions des deux derniers mois en permanence. Soit vous pouvez venir sur le Kiss Kiss Bank Bank de l'émission et vous pouvez rejoindre le Club Backseat avec un don de 15€ par mois qui vous donne accès aux VOD. Sachant que les VOD, vous les avez aussi avec un don de 5€ par mois, je crois. Ouais, c'est ça. Vous avez 5€ par mois, 10€, 15€. Vous avez de plus en plus de goodies. Plus vous faites un soutien important. Et merci pour vos soutiens, merci pour vos dons. Vous avez vu qu'on a avancé dans les paliers. C'est bon, on a passé les paliers. Attends, on en est où dans les paliers d'ailleurs? Donc... On va avoir un PowerPoint de Vincent sur Thibaut InShape. On va avoir Malek qui va vous lire le temps des combats de Nicolas Sarkozy en stream. On va avoir une émission Backseat spéciale élection européenne à Strasbourg. On va avoir Claire qui va faire une reprise du générique de Backseat au piano. Non, pas encore. Dans 375€ mensuels. C'est en mensuel, hein, je rappelle. C'est pas en somme absolue, c'est en don mensuel. Dans 375 euros mensuels, vous débloquez le palier. Claire reprend le générique de Backseat au piano. Trop bien l'émission live de Strasbourg avec du public. J'habite à côté du Parlement. On va essayer. Là, alors clairement, là je vous le dis tout de suite, je ne sais pas dans quelles conditions ni à quelle date va s'organiser cette élection à Strasbourg. Donc je vous tiendrai informé, comme d'habitude. À Strasbourg, il y a un live de prévu pour découvrir le Parlement européen et son fonctionnement. Ouais, il y a un live de prévu. Il a eu lieu il y a 3 jours. Mais il y en aura d'autres. Si, l'élection, on sait qu'elle aura lieu du 6 au 9 juin. Ça, on sait que l'élection européenne aura lieu du 6 au 9 juin. L'émission Backseat spéciale élection européenne, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Donc d'ici à juin, on va l'organiser. Mais voilà. Macron vient de faire un tweet sur les gamers. Ah non, mais j'ai pas envie de réagir aux tweets et aux petites phrases et aux petites. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron? Va se réconcilier. J'ai fait bondir les gamers. J'ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie. Je veux être plus clair. J'ai alors, oh putain. Ok, donc il a fait un tweet longueur assez vénère. Sur les jeux vidéo, Emmanuel Macron. On va le découvrir ensemble. Hop. Je reviens en arrière pour que vous compreniez la suite logique de l'histoire. À l'occasion de la Trackmania Cup, de la finale de la Trackmania Cup à Paris, à Bercy, avant les élections législatives, Emmanuel Macron a organisé une réception au Palais de l'Élysée où il a reçu à l'Élysée donc plein d'acteurs de l'e-sport et du streaming. Pour célébrer le jeu vidéo français et les filières e-sportives. Emmanuel Macron donc a dit il y avait Kameto, il y avait Laure Vallée, il y avait Zerator, il y avait plein de gens et tout. Moi j'y étais aussi. Et donc Emmanuel Macron a fait une petite cérémonie pour féliciter les jeux vidéo. Les Français, vous êtes très bons, bravo, c'est cool. Et il s'est engagé à ce que à partir de maintenant, les joueurs de jeux vidéo qui performeront, les joueurs de jeux vidéo français qui performeront dans des compétitions internationales soient reçus à l'Élysée une fois par an pour les célébrer au même titre que les sportifs, etc. Voilà. Bon, jusque-là très bien. Et ensuite, au cours de l'été, il y a eu les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Et au cours de ces émeutes, le président de la République, Emmanuel Macron, a accusé les jeux vidéo d'intoxiquer les jeunes qui s'adonnaient à des actes de violence. Ça a énervé beaucoup de gamers quand il a dit ça. Et Kameto, donc Kamel, a été interviewé dans la matinale de France Inter en début de semaine par Léa Salamé. Léa Salamé l'a fait réagir à cette sortie d'Emmanuel Macron. Et Kamel a été très clair. Il a dit qu'effectivement, Emmanuel Macron avait. Enfin, il a dit que selon. Enfin, il trouvait que ça avait été un traquenard d'inviter les joueurs de jeux vidéo à l'Élysée pour les célébrer, si c'est pour 6 mois plus tard expliquer que le jeu vidéo est responsable d'intoxiquer les jeunes. Voilà. Donc Kamel a eu une prise de position. Ah, très critique envers le double discours d'Emmanuel Macron sur le jeu vidéo. Et visiblement, Emmanuel Macron a souhaité. Bonne interview d'ailleurs. Moi, je l'ai trouvé bien cette matinale d'Inter. Léa Salamé a fait une très bonne interview, je trouve, de Kamel. Et donc voilà. Donc, Emmanuel Macron a décidé de répondre à cette altercation, à ce sujet, donc, via un long tweet que je vous propose de lire. J'ai fait bondir les gamers. J'ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie. Je vais être plus clair. J'ai exprimé mes préoccupations fin juin, car les codes du jeu vidéo avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C'est cette violence que je condamne, pas les jeux vidéo. Les codes du jeu vidéo auraient été utilisés pour... Les jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle. Ils sont un terrain d'expérimentation artistique, un espace d'apprentissage fascinant, mêlant tous les arts. Jouer, c'est écouter de la musique, plonger dans des récits, ressentir des émotions, voyager dans le temps. C'est explorer des univers visuels qui écrivent un nouveau chapitre dans l'histoire de l'art. La pratique compétitive des jeux vidéo est un sport, un écosystème avec, avec de véritables professionnels, des rassemblements de haut niveau et des tournois internationaux qui marquent l'histoire, qui forgent les générations autour des valeurs puissantes. Je fais une parenthèse parce que je viens d'y penser. Pourquoi est-ce qu'il fait ce tweet maintenant? Parce que ce soir, il y a le KCX de Kamel et en même temps, il y a l'ascension de Zerator. Donc ce soir, c'est un grand soir du jeu vidéo français. Donc, pas pour rien qu'Emmanuel Macron il tweet là aujourd'hui samedi. Les jeux vidéo sont des lieux de partage où les créateurs sont des passeurs et les joueurs des conteurs. Lieu de sociabilité et de rencontres avec des jeux aux origines du métavers. Ah, des jeux aux origines du métavers à l'instar de Fortnite ou de Roblox, oui, d'accord. Ils sont un endroit où l'on peut non seulement jouer, mais aussi assister à des concerts, voir des films en avant-première ou même créer. Jusqu'à plusieurs dizaines de millions de personnes connectées ensemble, c'est dire la puissance mondiale de ces plateformes et des univers. Ils rassemblent dans nos plus grandes salles une jeunesse bouillonnante, comme ce soir à La Défense pour le KCX 3 et la semaine dernière à Montpellier pour les finales des LEC et des EMEA Master. C'est vrai, il y avait aussi ces deux événements la semaine dernière à Montpellier. Putain, quelle rentrée e-sportive et politique nous vivons. Samedi dernier, au Mans, vous l'avez encore démontré avec le GP Explorer, votre passion n'a pas de limite. Effectivement, les jeux vidéo font partie intégrante de la France. Assassin's Creed ou encore Dofus sont des créations de talents français. Nous en sommes fiers et nous en facilitons l'accès avec le Pass Culture. Les jeux vidéo offrent des opportunités pour l'emploi et l'avenir en faisant naître des champions, mais aussi des ingénieurs, des développeurs, des designers et des créateurs. Le secteur inspire, fait rêver, fait grandir. Avec le plan France 2030, le plan de relance, je vous rappelle, j'ai voulu que l'on mette... Non, c'est pas le plan de relance France 2030, pardon, c'est le plan d'investissement. 100 milliards d'euros, tout ça, tout ça. J'ai voulu que l'on mette un coup d'accélérateur sur la filière. Nous l'avons fait notamment en renforçant significativement une quinzaine d'écoles publiques et privées qui font déjà partie des meilleures mondiales. Il y a le NGMIN, INSART, LISART Digital, Rubika, Creative Seeds, Artefix et j'en passe. Celles-ci vont créer de nouveaux parcours, accueillir plus d'élèves, ouvrir de nouveaux sites et participer au renouvellement des talents avec une ouverture sociale sans précédent pour assurer la relève des talents et encourager une plus grande diversité dans la création. Sans oublier les nombreuses infrastructures qui représentent fièrement notre pays dans un écosystème mondial. En juin 2022, j'ai réuni de nombreux acteurs de l'e-sport français et du secteur au Palais de l'Élysée. Si je n'ai pas brillé à Trackmania, mes mots étaient sincères. J'ai promis une nouvelle ère, elle s'ouvre. Je reste pleinement mobilisé pour continuer à accompagner l'organisation de grands événements en France, agir pour soutenir le secteur et l'aider à se développer. Il y a encore beaucoup à faire. Vous pouvez compter sur moi. Fin de ce tweet d'Emmanuel Macron, qui l'a pas écrit. Alors c'est très bien, bravo, très beau texte, sublime. C'est pas du tout Emmanuel Macron qui a écrit ça. C'est bien écrit, c'est chouette. Voilà, c'est un très très joli discours en faveur du jeu vidéo, en cette rentrée pleine d'événements, etc. Emmanuel Macron, il était sincère quand il disait que, selon lui, le jeu vidéo intoxique les jeunes dans les émeutes. C'est le fond de sa pensée, et voilà. Voilà. Je sais pas. C'est bien d'essayer de se rattraper avec un joli tweet bien écrit... qui dit des choses gentilles, mais en fait ça marche pas, et c'est justement ce qu'a expliqué Kamel dans l'interview. Que c'est le problème, c'est le double discours, c'est pas de dire des trucs gentils, c'est facile. Moi aussi je peux écrire des jolis tweets, etc. Le problème c'est quand spontanément, sur le moment, quand il y a des jeunes, quand il y a des émeutes, quand il y a des violences, etc., que spontanément l'idée même que le jeu vidéo te vienne en tête pour en parler, c'est que le problème en fait il est dans ta tête, il est pas dans... Donc bon, une énième disquette, ça fonctionne plus. Non, mais voilà, c'est ça le problème. Enfin... Je sais pas. J'essaye d'aller plus loin que simplement de la critique un peu facile de ah là là, mais non, Macron, il est nul, tout ça. J'essaye d'observer le fait qu'il y a de toute évidence un décalage entre les joueurs de jeux vidéo et la culture internet qui valorise particulièrement la sincérité, la transparence, l'honnêteté, la proximité, la complicité, et des artifices de communication politique qui sont à 20 000 lieues de ce qu'attendent ces jeunes-là. Et quand on sait, quand on voit, quand on entend comment Kamel, Squeezie, Zerator parlent de politique et de à quel point justement ils ne veulent pas en parler, de cette distance sanitaire qu'ils essaient de garder avec le monde politique, ce genre de truc-là, c'est très exactement ce qui leur fait encore plus augmenter la distance en disant mais hop, oula, ça, c'est encore un énième truc où on essaie de nous la mettre à l'envers pour donner un discours qui finalement va changer derrière. Que donc faut juste se poser une question, est-ce qu'un autre secteur que le jeu vidéo a eu droit à un tweet longueur de la part de Macron ? J'en sais rien, je lis pas les tweets longueurs de Macron tous les jours. C'est une très bonne question. Je pense oui. Au demeurant, ce que je dis concerne essentiellement la personne d'Emmanuel Macron, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, le gouvernement, l'État, le budget consacrent une partie de l'effort à soutenir et développer la filière e-sport. C'est vrai. La ministre de la Culture, Ima Abdulmalak, a eu l'occasion de le dire. Elle soutient le jeu vidéo, le Pass Culture, c'est un des dispositifs, c'est pas le seul. Il y a des investissements qui sont faits, il y a un crédit d'impôt jeu vidéo pour booster la filière, il y a une volonté des pouvoirs publics d'accompagner la structuration de la filière e-sport, etc. Très bien, ça c'est chouette. Mais bon, voilà quoi, c'est très joli texte, merci, pas sincère du tout, voilà. Ça fait écho aussi à l'interview de Kamel sur France Inter l'autre jour. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah non, mais ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, il tombe pas spontanément. C'est parce que Kamel, dans une matinale, dans la première matinale de France, a dit qu'il avait l'impression de s'être fait prendre une disquette de la part du président qui a un double discours sur le sujet. J'ai dit quoi ? J'ai dit Mélenchon ? Oh, ça va, hein ? Fatigué, hein ? Je peux pas dire ça, Jean, je suis sûr que le CM était ultra sincère quand il a écrit ce tweet. Non, mais encore une fois, c'est pas le fond qui est insincère. c'est un très joli texte que tweet Emmanuel Macron, le président de la République, souhaite faire savoir qu'il veut soutenir les jeux vidéo, soutenir cette structure, etc. Très bien, très bien, très bien. Le président de la République a un rapport très distancié et très critique vis-à-vis du jeu vidéo, à titre personnel. Et il l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un joueur de jeux vidéo, et ce n'est pas grave. Je ne suis pas un... Moi, vous savez, je ne suis pas un gatekeeper de « Ah, c'est même pas un gamer hein, !»« Trop nul, le président, quoi !» Non, il a le droit. Il a complètement le droit. J'ai encore dit Mélenchon, niquez-vous ! Ah ! Macron, virgule, n'est pas un joueur de jeux vidéo, n'est pas un aficionados de culture numérique, il n'a pas de pratique personnelle d'internet, des réseaux sociaux, de la culture web, etc. Et ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas pour ça, il a le droit d'être qui il est, j'ai aucun problème avec ça, je veux pas, voilà. si le peuple d'internet pouvait parfois arrêter de se comporter comme un connard, ça aiderait peut-être à ouvrir les bras et à ce qu'on soit des gens ouverts et tolérants. Donc il a le droit d'être comme il est, c'est pas le sujet. Le fait est que cette inculture personnelle vis-à-vis du jeu vidéo fait incliner Emmanuel Macron en direction d'une perception cliché, conservatrice, naze, même pas conservatrice, réac en fait du jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça empoisonne la tête des jeunes, ça leur met des mauvaises idées, des mauvaises machins, c'est un peu comme le rock'n'roll quoi. tu vois, voilà, c'est comme le rap, c'est, hein, ça leur met des idées, ça rend les jeunes violents. C'est un peu ce fond de discours un peu naze qui est un ressenti en plus, qui est basé sur absolument rien, aucune étude, rien, walou, etc. Mais un espèce de fond de l'air comme ça, ouais, hein, le jeu vidéo, ouais, pff, hein, bon. Et ben voilà, il a le droit d'avoir des clichés en tête, le président de la République, au demeurant, n'en avons-nous pas tous des clichés en tête sur plein de domaines, plein de sujets, etc. Donc voilà, donc tenter de rattraper une sortie sincère par un tweet insincère, ça aide pas. Ça aide pas à réduire l'incompréhension, quoi. Donc, le fossé entre le monde du jeu vidéo et le monde de la politique continue à se creuser. À mon grand désarroi et à mon grand désespoir, hein, vous le savez, hein, moi j'ai toujours été le compagnon de route de l'un et de l'autre de ces univers, et j'essaye de créer parfois des passerelles, essayer de rendre possible des dialogues. Et ben c'est pas grave, je suis pas aidé par tout le monde, je suis pas aidé par certains genres de jeux vidéo, je vous l'accorde, je suis pas aidé par certains politiques, je vous l'accorde, mais bon, on va pas s'arrêter, on va continuer, on va se battre. On va se battre en 1v1 BO3 sur CS. Mais non, mais on va se battre, on va continuer à faire des émissions politiques sur Twitch. On va continuer à inviter des politiques sur Twitch. On va continuer à parler de politique aux jeunes, aux gens, au monde, aux joueurs de jeux vidéo, à tout le monde. On va essayer de dire aux jeunes joueurs de jeux vidéo, et même aux moins jeunes d'ailleurs, que la politique c'est pas sale et qu'on a le droit de s'y intéresser, qu'on a même le droit d'avoir un avis, qu'on a même le droit de le faire évoluer. Et puis on va continuer à dire aux politiques que les jeunes sont pas une horde de gros cons moutonniers avides de violence, de sexe et de drogue, et que peut-être que la société gagnerait à faire confiance à sa jeunesse de temps en temps, à la considérer un peu, à lui ouvrir les bras, je sais pas, à la laisser faire, à la laisser être jeune, à la laisser innover, à la laisser être ce qu'elle est, cette jeunesse, finalement. Pas tout dans la même journée, faut répartir dans la semaine. Sois jeune et tais-toi. Ouais, non. Je sais pas. Je désespère pas, hein. Là, vous me voyez à moitié abattu, mais je désespère pas, hein. Moi, je m'en fous, hein. C'est pas possible ce discours, Jean Massier, désolé. Bah, la dernière fois que j'ai vérifié, si c'était possible. T'es pas abattu, ça, t'as les cheveux qui poussent à l'envers. Oui. L'avenir de la jeunesse, c'est le SNU. Ah bah ça, c'est pas Fortnite, hein. Est-ce que tu es torchon, chiffon, carpette? Je l'étais hier soir. Est-ce que tu pourrais inviter le président à Baxit ou un député de la majorité présidentielle? On a déjà reçu plusieurs députés de la majorité présidentielle dans Baxit et on continuera à en recevoir. On a déjà reçu des membres du gouvernement dans Baxit et on continuera à en recevoir. Et est-ce que je pourrais inviter le président de la République? Oui. Est-ce que j'identifie un moment particulier où ça se justifie là tout de suite? Non. Mais on verra. La jeunesse est-elle un groupe homogène que l'on peut essentialiser? Absolument pas! La jeunesse n'est pas une classe sociale, ne peut pas l'être. Il n'y a pas d'homogénéité. Dans la jeunesse, c'est un temps de la vie et c'est ce qui en fait une minorité universelle. Je vous expliquerai un jour. C'est le paradoxe et la précarité paradoxale de cette catégorie de la population qu'on appelle la jeunesse. C'est qu'elle est universelle et condamnée à la minorité. Statistique. Est-ce que c'est possible de te contacter quelque part? Ouais, sur mon mail pro. En même temps, c'est ton premier message dans le chat, donc... Condamner les minorités dans certains pays. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que la jeunesse est universelle parce que c'est un temps de la vie auquel on appartient tous ou on a tous appartenu. Donc c'est paradoxalement une catégorie de la population universelle. Ce qui est étrange, c'est un paradoxe total. Tu peux pas être catégoriel et universel en même temps. Bah si, la jeunesse l'est parce que l'axe sur lequel se positionne cette catégorie, c'est un axe temporel. La jeunesse est un passage obligé pour tout le monde. Et en même temps, le paradoxe, c'est que, et c'est pour ça que c'est une minorité contrainte, c'est que, pas forcément en termes statistiques, mais en termes politiques, c'est parce que on arrête forcément d'être jeune, un jour. Alors que, par exemple, pour une personne noire de peau, n'arrête jamais d'être noire de peau. Une femme n'arrête jamais d'être femme. La question des catégories sociales, des catégories d'études et de positionnement relatif, etc., fait qu'en général, tu sors rarement d'une catégorie, alors que les jeunes, paradoxalement, tu ne peux pas le rester. Faut lire le bouquin de Salomé Sake. Ouais. C'est un peu comme être vivant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est ce qui explique. Et donc, c'est ce caractère universel de la jeunesse qui fait que la jeunesse n'est pas une classe sociale, puisqu'en fait, être jeune, c'est indépendant de la classe, c'est indépendant du genre, c'est indépendant de la couleur de peau. C'est Ça vient pas forcément se surajouter, ça vient compléter. Donc c'est une catégorie d'appartenance très particulière, la jeunesse. Donc c'est la raison pour laquelle la question « que pensent les jeunes » est une question absurde. C'est exactement comme la question « que pensent les femmes ?» C'est une question absurde. Une question de magazine féminin. Plutôt de magazine masculiniste. « Que pensent les femmes ?» Bah, c'est la moitié de l'humanité, les femmes. Donc qu'est-ce qu'elles pensent ? Bah, en fait, elles sont tellement diverses, elles sont tellement nombreuses, elles ont tellement de classes sociales différentes, de cultures, etc., qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et ben bah, les jeunes, c'est pareil. « Que pensent les jeunes ?» Bah, j'en sais rien, demande-leur. ça marche pas comme ça. Donc il n'y a pas d'homogénéité de catégorie de la jeunesse. C'est pour ça que vous avez des jeunes abstentionnistes, vous avez des jeunes de gauche, vous avez des jeunes de droite, des jeunes d'extrême droite, des jeunes du centre, des jeunes de partout. Comment expliques-tu ce phénomène de jeunisme ou d'attention vers les jeunes à des moments de notre histoire où ceux-ci n'ont jamais été aussi minoritaires dans notre pays ? En fait, alors ça c'est pour le coup assez cyclique et assez classique. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est des représentations. C'est des représentations. C'est que le rapport qu'entretient une société avec sa jeunesse, c'est un rapport qu'entretient une société avec elle-même. Et c'est une peur de l'avenir, une trouille profonde vis-à-vis des incertitudes du temps qui peuvent provoquer chez des sociétés une volonté de contraindre, contrôler, réorienter sa jeunesse. Et c'est un truc que tu vois, c'est un truc que tu vois à l'œuvre à chaque fois que, par exemple, t'as des paniques morales ou des révolutions, ce qu'on appelle les révolutions conservatrices, la volonté de surcontrôler, d'empêcher les jeunes d'écouter du rock and roll et de danser dans les années 50, parce que dis donc, oulala, mais tout paravolo. Comment ça, tout paravolo, en fait c'est... Ouais, bah non, mais tu te... et en fait, et ça, c'est assez bien d'analyser ça, le fait que des sociétés, il y a des moments où les sociétés ont confiance dans l'avenir et des moments où des sociétés, pour un milliard de raisons, liées à des crises sociales, à des crises économiques, à des crises morales, à des crises culturelles, à des chambardements, à des chamboulements du monde, etc., et un peu plus flippées, quoi. En ce moment, on va pas se mentir, en Europe, en France particulièrement, mais en Europe, et puis dans tous les pays développés, on est un peu dans une période de crise. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Pas seulement économique, pas seulement les croissants des inégalités, mais aussi des crises en matière de démocratie, en matière de vivre ensemble, en matière de société, etc. Et c'est dans ce clair-obscur que des personnes sont tentées par une canalisation de la jeunesse comme réponse à une trouille que la société change trop. Donc, c'est pour ça que devient de plus en plus séduisant cette petite musique de « Et si on faisait des jeunes comme ceux des années 60, ce serait bien, non ?» Quitte à complètement fantasmer les jeunes des années 60, mais tant qu'à faire. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la question de la jeunesse. Rappelez-vous la campagne d'Éric Zemmour. Il promettait quasiment mot à mot la France des années 60. Il disait aux Français, regardez, on va retourner à une époque de Brigitte Bardot et de Belmondo, une petite époque où il faisait bon être français, par-delà les prairies, les clochers dans les villages, etc. Bon, c'est complètement fantasmé, hein, évidemment. Puis alors, ça fait l'impasse sur un nombre de trucs incalculables. Mais le fait que cette petite musique marche bien auprès d'une certaine partie de la population, hein, je ne dis pas pour vous, mais ça dit quelque chose d'un rapport au temps présent. Regardez, encore une fois, pardon, je ne vais pas surinterpréter pour la millième fois, mais la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, cette espèce de célébration d'une France aux couleurs pastel, c'est une France qu'on aime regarder parce qu'on se la fantasme un peu, quoi. C'était le bon temps, c'était, je sais pas, il y avait un côté champêtre... une espèce de bon souvenir comme ça dans l'air du temps. Bon, bah, c'est intéressant. T'as l'impression qu'on voit d'autant plus le passé en couleur que l'on voit l'avenir en noir. Tout paravolo, monsieur, dame, foutons des uniformes aux jeunes. Ça changera rien, mais ça nous rassurera, nous, les vieux, dans l'idée qu'on se fait de... Ah, c'est bien, on agit. On contrôle mieux, on resserre les vis, là. On tient mieux le guidon de l'avenir, on tient mieux le guidon du monde, de ce qui va advenir. on se ment à nous-mêmes, mais c'est pas grave, parce qu'en fait ça nous convient. On accepte de se mentir à nous-mêmes, on a besoin de se rassurer, et quoi de mieux que toutes les jeunes au pas pour se rassurer sur notre capacité à contrôler l'avenir. Bon, et ben voilà. Et je plaide pas pour... attention, parce que le petit discours que je suis en train de vous faire, on pourrait traduire par... d'accord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avenir, il est tout rose, que c'est le pays des bisounours les 20 prochaines années et tout ? Ah non, pas du tout. Pas du tout ce que je dis. Absolument pas. J'en sais rien. C'est un biais cognitif, le c'était mieux avant, notre cerveau a tendance à conserver en mémoire les événements positifs plus facilement que les mauvais. Exactement. D'où le conservatisme culturel. Tous les casse-couilles qui nous disent le rap c'était mieux avant, le rock c'était mieux avant, le jeu vidéo c'était mieux avant, Twitch c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. C'est juste qu'on en a gardé les bons souvenirs. On a oublié. Et heureusement, toutes les merdes qu'on a écoutées à l'époque où soi-disant le rap c'était mieux. Putain, il y avait des daubes. Notre cerveau les a oubliés. Tant mieux, c'est pas très grave. L'âge d'or, voilà, le fameux âge d'or. Ah ouais, c'était l'âge d'or. Non, c'était pas du tout l'âge d'or. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'on a des bons souvenirs. Et c'est bien d'avoir des bons souvenirs, c'est cool. Et ce conservatisme, moi, il me fait flipper. Hein. Il me fait vraiment flipper, c'est cette idée de... Puis alors, parfois, pardon, excusez-moi, mais il y a aussi un narcissisme. Il y a quand même un narcissisme dans le fait de se regarder le nombril en se disant ce serait quand même vachement mieux que les jeunes d'aujourd'hui, et ben ils ressemblaient à ce que j'étais moi quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, c'est moi le sujet, c'est moi l'objet, c'est ma gueule, c'est ma... C'est mon époque. Mon époque, elle était mieux. Ah bon ? Ah ouais, pourquoi ? Bah, parce que c'était la mienne. Et ça, putain, mais il y a un narcissisme là-dedans. C'était mieux à mon époque. Comment ça ? Bah, nique-toi, en fait. Les jeunes, aujourd'hui, c'est leur époque à eux. Ils sont en train de la kiffer, leur jeunesse. Tout se passe bien pour eux. Va te faire enculer. Non, mais c'est un truc... Laissez les jeunes écouter de la musique de merde. C'est leur musique, c'est pas la vôtre. Hein. Niquez-vous, elle est pas faite pour vous plaire. Hein. Ça vous plaît pas ? Tant mieux, on s'en branle de votre avis. Ah ouais, mais ça me plaît pas. Bah et alors, on s'en branle. Ouais, mais je préférais qu'ils écoutent autre chose. Bah va te faire foutre. Ça te va, comme réponse ? Ouais, mais je préférais qu'ils s'habillent différemment, les jeunes. Bah va te faire foutre. Ça te va, comme réponse ? Ouais, bah voilà. Ouais, moi, à l'époque, on était mieux sapés. Va te faire foutre ? Ça vous plaît pas ? Tant mieux, c'est aussi fait pour... Ouais, il y a aussi un peu de ça. Il y a aussi un peu de ça. Ouais, ouais. Ça te plaît pas ? Hein ? Bah, c'est un peu pensé pour pas te plaire. Mmh. Les vêtements des femmes surtout. Ah bah oui. Ah bah quitte à avoir un commentaire. Sur les fringues. Ouais, ouais. Beau débat avec les jeunes, ils disent quoi couper alors que nous on disait fur dans notre jeunesse et c'était pas mieux. Ouais, en plus si on joue au concours de c'était qui le plus débile de la cour de récré. Moi je vais challenger les petits jeunes d'aujourd'hui. Hein. ouais. Genre, on lisait du Baudelaire dans la cour de récré. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Mmh. Bien sûr. Mmh. Ah, on écoutait les Beatles, ouais. Ouais, bien sûr. Mmh. Ah, ouais. Ah, on révisait nos cours. Hein. Ouais. Ah, puis on était sages en classe. Mmh. Ah, ouais. On pensait pas au sexe quand on était... Non, non, non. Non, non, ça, c'est des dégénérescences des jeunes d'aujourd'hui, ça. Oh non, nous, à l'époque, on se tenait. Putain, on disait bonjour et merci. Oui, oui, oui. On disait bonjour madame, bonjour monsieur, merci madame, merci monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur. Oui, 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 bien sûr. Ah ouais, on était polis, bien élevés, on était respectueux de la loi, de la République et de l'ordre. Mmh. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on respectait nos anciens. Oui, on écoutait nos parents. Oui. Oh, ça va se tenir. Hein. On regardait pas Twitch. Alors, tiens, pareil, c'est un très bon exemple. Avant qu'il y ait TikTok, avant qu'il y ait Internet, à l'époque que les historiens appellent l'époque sombre. Donc l'époque pré-internet. Donc il date de... il y a 13,6 milliards d'années jusqu'à, en gros, le début des années 80, début des années 2000, sur la massification Internet, elle est 95, on va dire. donc pendant cette période-là, non, je déconne. En vrai, pendant les années 70, 80, 90, etc., quand il n'y avait pas Internet, etc., on lisait des magazines pour ados. Vous avez déjà vu des magazines pour ados de l'époque? Les Dark Ages, ouais, c'est ça. Ok, Mag, c'est cringe. Oh oui. Oh oui. Ouais, jeune et jolie, Rock One et tout. Ouais, ouais. Ben, voilà, c'était la débilité adolescente de son temps. Ouais, ouais. Puis il n'y avait pas que ça, il y avait des trucs bien aussi. Hein. Il y avait le petit journal, il y avait. Il y avait plein de trucs, il y avait Sciences et Vie Junior, Sciences et Avenir, etc. D'ailleurs, ça existe toujours, hein. J'en parle au passé, mais voilà. Mais bref, les gens qui vous disent que quand ils étaient jeunes, eux, dans les années 80, bah, ils étaient moins débiles et moins abrutis que les jeunes d'aujourd'hui, parle. Bref, tout ça est parti d'un tweet du président de la République tentant de recréer, de retisser les liens avec le monde du jeu vidéo avec lequel définitivement il ne parvient pas à créer de lien. Et c'est en grande partie, je pense, à cause de son insincérité dans son rapport au sujet. Et que c'est une insincérité qui est d'autant plus préjudiciable dans un monde où le public y est très sensible à la sincérité. On verra ce que ça donnera à l'avenir. C'est pas lui qui avait lâché il y a genre 2 mois une tirade en réunion en expliquant qu'il fallait sortir les jeunes des jeux vidéo débiles. Si, si, si. Si, si, c'était lui. Mais justement, c'est pour ça qu'il sur Twitter aujourd'hui, il essaye de recréer les liens parce qu'il a fâché tout le monde en fait avec sa sortie. Sa sortie qui était sincère, enfin qui était de bonne foi. Emmanuel Macron pense, oui, que les jeux vidéo rendent les jeunes violents. Et il est pas le seul à le penser au demeurant. Bon, bah voilà. Le problème, c'est que le en même temps, ça ne fonctionne pas. Pas d'un côté dire youpi bravo le jeu vidéo et en même temps bouh caca le jeu vidéo. Bon, en tout cas, faut pas s'attendre. Enfin voilà, faut accepter de perdre. Faut accepter de se fâcher avec des gens. On peut pas juste penser ça, ça n'a aucune profondeur d'esprit. Non, mais il y a. Alors, il y a plus de profondeur que ça, évidemment. Emmanuel Macron n'est pas le roi des débiles. Hein. Il a quand même un chouïa de plus de profondeur, malgré une méconnaissance du monde du jeu vidéo. Et encore une fois, il ne faut pas en tenir rigueur particulièrement, c'est pas grave. Il a le droit. J'en connais plein d'autres, hein, des politiques qui connaissent rien au jeu vidéo. Je remarque que M. Macron est très doué pour se fâcher avec les gens. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Macron a jamais été capable d'empathie pour des mondes qui lui sont étrangers. Le jeu vidéo, c'est que le dernier exemple en date. Je réfléchis. Mais je crois que j'ai le cerveau trop cramé pour réfléchir. Les gars, il est 18h là. On est en train de philosopher sur des trucs. On est censé être samedi. Moi, je suis plutôt censé me reposer là. Bon, en vrai, j'avais envie de discuter avec vous. Parce que j'étais quand même trop content de vivre ce moment avec vous hier. Merci d'avoir été là en vrai. C'était trop cool. Merci pour votre soutien à Baxit. Bientôt, on va y arriver. Bientôt, on va y arriver à avoir la reprise par Claire du générique au piano. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je crois qu'on va aller. On fait un raid ou pas? Non, on fait pas de raid. Eh, vous savez quoi? On est samedi, pas de raid. Voilà, Nick. Si, tiens, on va faire un raid chez. Non, pas de raid. Allez, hop. Je vous fais des bisous, les copains. C'était chouette. Raid de KCX. Oui, on peut raid le KCX. Comme ça, voilà. Bon, bah, voilà. Tiens, voilà. Puisqu'on parle de jeux vidéo, d'e-sport, etc. Soyez plus ouverts qu'Emmanuel Macron. Allez découvrir le jeu vidéo à l'occasion d'une très très belle soirée organisée par Kameto. Ah non, on peut pas. Il a désactivé les raids. Et bah vous allez y aller physiquement. Voilà, Kameto, c'est le nom de sa chaîne. Il organise ce soir le KCX, un grand événement. Pour célébrer l'e-sport et notamment League of Legends avec plusieurs équipes, notamment la sienne, etc. Allez-y, ça va être chouette, je vous fais des bisous, merci d'avoir été là, c'était cool. On se retrouve lundi pour le retour des émissions de votre chaîne préférée. Merci d'avoir été là, ciao bye bye, c'était chouette.